2021, une fuite d'acide phosphorique. Le 21 juillet 2022, une nouvelle fuite d'acide phosphorique. Le 8 septembre 2022, une fuite d'acide sulfurique à nouveau. Et le 28 juillet 2023, la dernière en date, de nouveau d'acide sulfurique. Donc ces fuites à répétition, on a l'impression quand même que ça se rapproche dans le temps. Peut-être signe pour nous de la vétusté des installations et aussi de la négligence de l'industriel qui, quand ces fuites se produisent, ne déclenche pas forcément toujours son plan d'opération interne. Alors on n'arrive pas très bien à savoir pourquoi. Qui ne prévient pas forcément les services de l'ADREAL comme il devrait le faire. Et quand on a accès aux services de l'inspection et qu'on peut consulter les rapports de l'inspection, on se rend compte que les choses qui sont dites sont redites et re-redites à chaque fois. Que par exemple, au niveau des protocoles de sécurité, les salariés n'ont pas toujours à disposition toutes les consignes pour pouvoir intervenir dans le meilleur des cas. Qu'il n'y a toujours pas de consignes qui sont vraiment spécifiées pour les canalisations de matières dangereuses. Ça fait partie de l'arrêté préfectoral de 2015. Ça a été répété à plusieurs reprises et encore la dernière fois, le 28 juillet 2023, en disant que les consignes ne sont pas assez précises pour les salariés. D'ailleurs, le 28 juillet 2023, un salarié a été victime d'une brûlure. Je pense que peut-être M. Doguet, le maire de Montoire, nous en dira un peu plus. Et puis, je sais qu'il y a des salariés aussi dans la salle, des représentants des salariés, et ils auront la parole aussi pour s'exprimer là-dessus tout à l'heure. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, on est inquiet parce que ça continue et ça se rapproche dans le temps. Alors là, on voulait juste faire un petit retour en arrière. Alors c'est vrai qu'il est ancien, hein, ça date de 1987. Certains, je pense, avoir les cheveux blancs dans la salle s'en souviennent. Donc cet incendie qui avait eu lieu sur le secteur de Saint-Herblain et qui avait nécessité une partie d'évacuation de la population. Certains avaient été confinés, d'autres avaient été évacués avec un nuage de 5 km qui contenait des vapeurs de chlore et des vapeurs nitreuses. Ça faisait écho aussi, pour certains ça fera peut-être, mais en tous les cas, pour certains d'entre nous, nous avons aussi pensé à l'accident qui avait eu lieu le 26 septembre 2002. Alors pour montrer aussi que le départ de l'accident, il peut venir de l'industrie elle-même, mais il peut venir aussi d'à côté. Et le 26 septembre 2002, il y a eu un feu qui s'est déclaré en fin d'après-midi sur un cargo qui était à pomper au terminal. Et donc, il y a eu combustion d'engrais à l'intérieur du paquebot. Alors, avec un peu de chance pour les habitants de ce côté-ci de la Loire, les vents ont emmené le nuage de l'autre côté de la Loire. Mais ça a quand même nécessité de confiner les communes de Saint-Brévin, de Paimboeuf et de Corset. Donc pour vous dire qu'effectivement, l'accident, c'est pas une vue de l'esprit et il peut arriver. Et en général, il arrive surtout quand on ne s'y attend pas. Et c'est toujours un concours de circonstances qui fait que le petit incident de départ peut rapidement devenir un gros événement, voire un accident majeur. C'est donc pour cette raison que nous insistons énormément, au-delà des pollutions qui sont rejetées par l'industriel, sur la mise en conformité de la salle de contrôle, puisque normalement, elle devrait être mise aux normes déjà depuis un petit moment. L'industriel dit avoir fait des travaux, et c'est certainement la réalité. Il y a eu des travaux qui ont été engagés. Par contre, visiblement, ces travaux ne garantissent pas la totale sécurité des salariés qui se trouveraient à l'intérieur en cas d'accident. L'industriel a choisi de ne considérer que certains scénarios de danger. Il a évacué ceux qui, pour lui, étaient insignifiants. Donc c'est assez quand même dramatique de penser que d'autorité, il écarte un certain nombre de scénarios qui sont potentiellement possibles, mais parce qu'il pense que ça n'arrivera pas. Eh bien, il les écarte et il met en jeu la vie, non seulement des salariés, mais des gens qui se retrouvent dans l'environnement. Parce que le PPI de Yara, hein, son plan particulier d'intervention, il peut couvrir quand même actuellement 16 communes. 16 communes pour le risque toxique, un petit peu moins normalement pour le risque d'explosion, ce qui nous étonne toujours, dans la mesure où on sait les quantités de produits qui sont stockés à l'intérieur de cette entreprise. Bon, le périmètre d'explosion, il est quand même de 3 km, enfin, il est considéré de 3 km. On a quand même dans ce rayon-là, à la fois d'un côté une raffinerie et de l'autre côté un terminal méthanier. Autant dire que les phénomènes, on ne peut pas l'évacuer. L'industriel, par exemple, a décidé d'évacuer au niveau du risque thermique un certain nombre d'accidents parce qu'il considère qu'ils n'arriveront pas, mais il évacue en faisant ça des accidents qui auraient une incidence thermique sur le bâti de cette salle de contrôle. Donc, ils ne garantissent pas que la salle de contrôle, notamment les vitres, résisterait. Il ne garantit pas non plus au niveau de la surpression. Et au niveau du risque toxique, certains accidents sont aussi balayés. Et donc, il ne fait pas la preuve que sa salle est complètement hermétique en cas de problème toxique. Donc voilà, les quelques éléments que nous avons en notre possession, hein, qui sont des éléments un peu techniques peut-être, n'hésitez pas à poser des questions et on les répondra dans la mesure de nos connaissances. Et ce qui nous semble intéressant, c'est de laisser maintenant M. Noguet, maire de Montant de Bretagne, apporter son témoignage.
Merci. Merci Mme Le Clerc. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je voulais d'abord remercier mes collègues élus qui m'accompagnent, parce qu'aujourd'hui c'est moi qui parle, parce que je suis maire de la commune où est située Yara. Et je voudrais remercier mes adjoints qui m'ont accompagné ce soir, et puis remercier aussi Claude Aufort, le maire de Trignac, qui suit ce dossier-là de très près. Yannick Beaugrenard, qui était notre sénateur jusqu'à dimanche dernier, mais qui nous a épaulés aussi fortement sur le dossier. Et enfin, Mathias Tavel, qui est ici présent, et je le remercie d'avoir pris le train de Paris pour venir nous voir ce soir, et il repart demain matin. Donc merci Mathias de ton soutien, notre député de circonscription. Ceci étant, alors effectivement... le dossier d'Yara est très préoccupant. J'ai eu la chance de rencontrer les équipes d'Hugo Clément. Alors, pour certains d'entre vous, certains certainement le connaissent. Et son équipe est venue pendant 3 jours faire un reportage sur mon toit. Et on a évoqué forcément le dossier d'Yara, parce que c'est pour ça qu'ils venaient. Et ils étaient accompagnés, ils m'ont fait une surprise de venir avec un expert qui s'appelle Paul Poulain. D'ailleurs, j'ai vu en rentrant que son livre était en vente. Hein, Et je vous invite à jeter un œil parce que c'est vrai que ça fait un peu froid dans le dos. Et Paul a fait une étude, il m'a demandé combien il y avait de stockage journalier dans l'entreprise Yara. Et il a fait une projection, et ce qui corrobore ce que vient de dire Mme Leclerc, c'est que dans un rayon de 5 km, quand il a dessiné sur la carte, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est-à-dire que dans une distance proche, il n'y a vraiment plus rien. Et après, il y a toutes les ondes, les vitres qui explosent, enfin bref. Alors après, quand on discute avec le commandant des pompiers qui gère notre circonscription, quand on discute avec d'autres personnes, le risque d'implosion ou d'explosion, il est peu probable. Alors quand on me dit ça, peu probable, moi ça me fait froid dans le dos, parce que quand on regarde AZF, quand on regarde Lubrizol, et bien le hasard veut que la catastrophe de Lubrizol, il y a 4 ans aujourd'hui, hein, je ne vais pas donner dans le mélo, mais c'est pourtant la vérité. Après, il y a beaucoup de gens qui m'ont interpellé par rapport à la catastrophe de Beyrouth, mais les conditions de stockage à Beyrouth n'étaient pas les mêmes que celles de chez Yara, Montoir, et fort heureusement. Donc les circonstances ne sont pas les mêmes. Quand certains salariés de Yara sont venus me voir, alors de manière anonyme, hein, parce que moi je préserve l'anonymat des salariés, et les témoignages me font froid dans le dos, on m'a donné quelques photos, je vais en diffuser juste une ce soir sur l'outil. En cas d'incendie, ça fait froid aussi dans le dos, une bouche à incendie qui est à moitié oxydée, et un tuyau d'arrosage qui est replié sur lui-même, et je ne sais même pas s'il est utilisable. Autre chose qui me fait bondir, c'est le dernier rapport de Géorisk, que tout le monde peut consulter, hein, vous allez sur le site de géorisk.fr, vous tapez 44550 le code postal de Montoir, et vous avez le rapport. Le rapport, qu'est-ce qu'il dit? Il constate un certain nombre de choses. Et pour plaisanter, parce que j'aime bien plaisanter, malgré que c'est pas drôle ce dossier, j'ai dit, on applique la méthode des 3C. Alors la méthode des 3C, c'est quoi? C'est constater, comprendre, et normalement on doit corriger. Et là, le dossier Yara aujourd'hui, c'est la méthode des 5C. C'est con, mais c'est comme ça. Bon, je suis content que ça vous fasse rire. Moi aussi, ça me fait rire. Mais et quand on discute, alors j'ai pu rencontrer le nouveau directeur le 14 septembre avec mon premier adjoint, parce qu'avec l'ancien directeur, c'était même pas la peine de discuter, parce que pour lui, quand on évoquait la pollution du dossier Yara, il nous disait, droit dans les yeux, qu'en termes de pollution, l'entreprise Yara de Montoire de Bretagne était la plus vertueuse du monde. Et comme le disait tout à l'heure Madame Leclerc, en fin de compte, il prenait un exemple, c'est comme si vous preniez votre bain et puis que je mettais une cuillère à soupe de Ricard dedans. Voilà ce qu'on là la pollution. Donc quand vous parlez d'un dirigeant qui est censé normalement protéger la santé de ses salariés, ça fait trois dans deux. Donc le nouveau directeur, M. Lagadeux, qu'on l'a rencontré le 14 septembre, bon, ça m'a l'air d'être quelqu'un d'un peu plus sensé, on va dire, et qui est, quand je lui ai montré les photos sur les organes de sécurité dans son entreprise, n'a pas paru plus que ça surpris. D'ailleurs, il venait de faire une tournée juste avant qu'on arrive, et avait constaté lui-même des manquements. Et il me disait que l'ancien directeur, tout devait passer par lui, ce qui déresponsabilisait les salariés, et je dirais que la culture de la sécurité, selon ses dires, n'était pas forcément partagé par l'ensemble des salariés. Moi, où je suis inquiet, c'est d'abord, avant tout, pour les salariés. Parce qu'on m'a dit, ben ouais, parce que ce directeur en question, M. Ménard, me disait, mais normalement, un maire, c'est fait pour défendre les entreprises. Alors, je suis entièrement d'accord. Moi, dans mon cadre professionnel, je travaille pour les entreprises. Sauf que moi, je défends les patrons qui font leur boulot correctement, et je ne défends pas les patrons voyous. Ce qui m'a valu un courrier du directeur général de Yara France me menaçant de porter plainte contre moi pour diffamation, sans compter les menaces qu'on suit. Donc on ne baisse pas les bras. Alors ce nouveau directeur a l'air un peu plus ouvert que l'ancien. Maintenant, lors du rendez-vous, j'avais mis une fiole dans ma poche pour pouvoir faire un prélèvement d'eau. Et donc je lui dis, bah, puisque vous êtes transparent, est-ce que je peux me permettre de faire un prélèvement d'eau dans votre entreprise? Il dit, bah non. Gentiment, hein, c'était très courtois le rendez-vous. Je vois mon adjoint sourire parce qu'il était avec moi, et c'est vrai que quand il a vu sa tête, quand il a vu sortir la fiole, il a dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Et je lui dis, mais pourquoi vous ne voulez pas, puisque vous dites que vous êtes transparent? Il dit, non, parce qu'on fait déjà, nous, nos propres contrôles, et puis l'Adréal fait aussi des contrôles. Là, je dis, justement, si vous êtes propre, je peux prendre de l'eau Il dit, non. Bon, j'ai après argué du fait, ben, comme je suis le maire, vous allez peut-être faire une exception. Il dit non, pas plus. Bon, d'accord. Donc on s'est rassis là-dessus. Et puis je lui ai demandé une autre faveur. Je lui ai dit, écoutez, puisque vous venez d'arriver, moi j'ai été reçu deux fois par un directeur de chez Yara, les deux fois j'ai été reçu dans votre bureau. J'aimerais, la prochaine fois, qu'on puisse, avec quelques élus de la ville de Montoire, éventuellement des élus voisins, mais aussi avec des représentants des associations. Alors on ne sera pas 50, hein, parce qu'il y a aussi des notions de sécurité, et je suis bien conscient de ça. Est-ce que vous accepteriez qu'on puisse visiter avec vous le site de l'entreprise? Il m'a dit, oui, je vous le promets. Chose qui a été tenue, puisqu'il m'a confirmé par mail qu'une visite sera organisée, alors je ne sais pas quand. Je ne pense pas que la télévision sera admise, mais au moins si des représentants des associations, des quelques riverains et des élus peuvent visiter, c'est déjà une grande avancée. Donc moi, je mets beaucoup d'espoir en ce nouveau directeur. Maintenant, c'est un directeur de passage, il ne faut pas se leurrer. Il nous a avoué, quand on l'a vu le 14 septembre, que Yara Montoire allait faire 36 millions d'euros de pertes cette année, que pour mettre l'outil à peu près d'aplomb, parce qu'en fin de compte, depuis qu'il est arrivé, ça fait 3 mois maintenant, il y a eu 4 ruptures de canalisation, enfin des fuites. Donc l'outil est vraiment vétuste. Alors après, s'il y a des salariés qui veulent témoigner, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc il me dit aussi, donc 36 millions d'euros de pertes, pour remettre l'outil à peu près confort, il faut mettre tous les ans entre 10 et 15 millions d'euros d'investissement. Et pour vraiment remettre l'outil d'aplomb, il faut mettre 80 millions d'euros sur la table. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe pour le glyphosate, notamment, où il risque d'y avoir un texte de loi pour interdire l'exploitation, l'utilisation du glyphosate, des experts, alors moi je ne suis pas expert, je ne fais que rapporter ce qu'on a dit, dans les 10 ans à venir, de toute façon, les produits qui sont fabriqués chez Yara, s'il n'y a pas un produit de substitution, ça s'arrêtera. Donc aujourd'hui, l'investisseur Yara préfère payer 450 000 euros ou 500 000 euros d'amende par an, plutôt que de mettre l'outil aux normes. Donc je vous le dis tout droit, dans les yeux, les yeux dans les yeux, qu'à mon avis, avant 10 ans, l'entreprise Yara sera fermée. Et après, qu'on ne vienne pas dire, parce qu'on se sert de ça aussi, pour me mettre la pression, en disant, bah vous, en tant qu'élu, vous devez défendre les entreprises, parce que vous aurez le licenciement de 170 familles sur votre conscience. Alors je lui dis froidement, les yeux dans les yeux, mais j'ai dit, écoutez, je préfère qu'aujourd'hui, au niveau des chantiers, on recherche du monde, au niveau Airbus, on recherche du monde. Alors certes, je ne connais pas le niveau de salaire des gens de chez Yara, ce ne sera peut-être pas satisfaisant, mais au nom de l'emploi, on ne doit pas sacrifier la santé, un, des salariés, et deux, de la population. Parce que quand on parlait tout à l'heure du rayon d'action, d'un souffle d'explosion, s'il y avait une explosion, on parlait tout à l'heure d'un rayon d'action de 5 km, Montoire, c'est 7300 habitants. Seulement en journée, quand on compte les salariés de chez Airbus et la zone de Cadréan en termes de salariés, c'est entre 20 et 25 000 salariés dans ce rayon d'action. Si, comme le disait Mme Leclerc tout à l'heure, il y avait un effet conjugué, l'effet domino, avec un terminal gazier, un bateau qui venait faire le plein ou chercher du gaz liquéfié, je ne vous raconte pas les dégâts, sans compter la raffinerie, alors qui est un peu plus loin, mais il y aurait certainement des répercussions, sans compter les vibrations au niveau de l'estuaire de la Loire, l'effet, peut-être pas de tsunami, il ne faut peut-être pas exagérer, mais il y aurait certainement un effet qui serait pas neutre. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas là pour vous faire peur, mais moi, franchement, je ne suis pas rassuré par cette entreprise. Ça vaudra des problèmes parce que aujourd'hui, je sais pertinemment qu'au plus haut niveau de l'État, même s'ils sont conscients que le dossier est un peu pourri, sauf que personne ne bouge. Et tant pis pour les conséquences, mais je pense qu'il y a un lobbying derrière les syndicats agricoles qui font pression. Parce que M. Ménard, dans sa grande gentillesse, m'avait dit aussi à l'époque que grâce à nous, la souveraineté alimentaire de la France est assurée. Voilà. Donc je termine là mon propos et je me tiens à votre disposition pour échanger. Donc là, je vous ai juste mis une petite photo parce que avec les équipes d'Hugo Clément, il y a une certaine exclusivité au niveau des photos. Donc ça, c'est une borne à incendie. Et regardez les conditions de stockage du tuyau. Et le directeur m'a affirmé qu'effectivement, c'était bien chez lui. Voilà. Merci de votre attention.
Donc là, on se réserve un petit espace de parole. Donc s'il y a des interventions à faire, eh bien c'est maintenant qu'il faut les faire sur le sujet que nous venons de présenter, sur les sujets que nous venons de présenter. Il ne faut pas avoir peur. Oui, on sait que la première question, c'est la première. Pardon.
Oui, bonsoir. Par rapport à la suspension administrative de Yara qu'on demande, moi j'ai regardé d'abord quand est-ce que c'est arrivé quelque part. Et, en fait, on s'aperçoit que on suspend administrativement des restaurants, des bistrots, des petites boîtes, des artisans, rarement les multinationales. Alors, voire jamais. Bon, je crois qu'il y a eu un problème, ça c'est arrivé à Total Energy de l'estuaire, hein, qui a eu un moment dans l'histoire, une suspension administrative. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que les acteurs qui sont susceptibles de faire une suspension administrative sont la préfecture, le préfet, donc, et le maire. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai vu, en tout cas, dans les gérants, c'est les deux personnes qui peuvent le faire. Un maire a la responsabilité s'il le veut. Merci.
C'est dommage celui-ci. C'est parti, monsieur.
Pour éclairer un petit peu, le maire peut demander, mais c'est le préfet au final qui décidera. Et donc, pour répondre aussi au précédent, effectivement, la suspension administrative, elle est largement utilisée sur ce qui est le commerce, des boissons, enfin voilà, c'est effectivement un peu répandu. Mais la dernière en date, alors il y a eu deux départements, mais il faudrait qu'on. J'avoue que je ne les ai pas en tête, Il y a eu deux départements où un préfet a pris ce genre de décision dans le sud de la France. Et il y a le dernier en date, c'est au niveau de l'entreprise Esso à Port-Jérôme. Port-Jérôme, c'était Esso était comme Yara. Il faisait partie des six industriels qui avaient été mis en vigilance renforcée le 1er juillet 2021. En juillet 2021, l'État avait considéré que six industriels n'étaient absolument pas dans les clous et donc il les avait ciblés en négociant avec eux un plan de remise à niveau et de remise aux normes. Et donc ces industriels-là avaient jusqu'au 31 décembre 2022 pour effectuer ce qu'on attendait d'eux. Et donc parmi ces six, il y avait donc Esso, et Esso arrivait à échéance quand ils ont fait le bilan, quasiment à la fin de l'année 2022. Sur les six, il y en avait quatre qui avaient coché toutes les cases, donc qui avaient répondu aux demandes de l'administration. Il y avait Esso qui en avait fait une partie, mais il lui restait une unité qui n'était pas conforme. Donc le préfet a décidé de fermer cette unité-là jusqu'à ce que la remise aux normes soit faite. Et nous, ce qui nous a vraiment estomaqué, c'est de voir que le seul qui n'avait coché aucune case, eh bien, il ne se passait rien pour lui. Alors quand je dis « il ne se passait rien », j'exagère un peu. Oui, il y avait une nouvelle mise en demeure. Oui, il y avait les amendes qui perduraient à la clé. Mais il n'y avait pas de sanctions supplémentaires. Donc ça paraît quand même énorme de voir que... un industriel qui n'a pas tout fait, mais bon, on a fait quand même une partie suspension administrative, et celui qui n'a rien fait, rien, enfin, rien de nouveau sous le soleil. Et donc, c'est vrai que cette demande-là que nous avons, on se dit que de toute façon, enfin, M. Noguel le disait tout à l'heure, on n'est certainement pas prêt de l'avoir prise en compte, puisque, en fait, le dernier courrier que nous avons eu de la Direction générale de la prévention des risques, il est très clair. D'abord, ils ne répondent pas à notre question, mais en général, ils ne répondent jamais aux questions qu'on leur pose, ils répondent toujours à côté. Mais le courrier dit, ce sera amende jusqu'à satisfaction. Bon, ça peut durer encore, alors, sauf l'état dans lequel se trouve l'entreprise, mais ça ne durera pas 30 ans, bien évidemment, on en est bien conscient, mais ça durera jusqu'à ce que l'industriel veut bien que ça dure.
Deux questions là-bas.
Ça m'impressionne un peu le micro, donc si je parle comme ça, est-ce que tout le monde m'entend ?
Oui.
Vous avez commencé votre intervention première en disant qu'il ne fallait pas comparer avec des routes, mais en même temps, vous finissez en parlant que c'est du lobbying, que c'est ce qui se passe avec Lara et la gouvernance. Il me semble qu'à Véro, ce qui s'est passé, c'est que rien n'a bougé à cause de corruption. Je ne sais pas s'il y a une énorme différence que la corruption de lobbying. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est si au niveau des quantités, parce que je ne me rends pas compte de ce qui est exposé à Beyrouth, parce que moi j'ai les images encore en tête, plus c'est un peu plus loin, est-ce que ce serait à peu près les interprétations, parce que là je parlais de l'effet domino avec la raffinerie et le terminal des addicts, je ne me rends absolument pas compte de ce que ça pourrait représenter, est-ce que.
Alors déjà, je n'ai pas besoin de prendre de micro, je pense. Vous m'entendez là où je...
Oui.
Beyrouth, c'est une goutte d'eau par rapport à Yara en termes de volume. Maintenant, quand on parlait de corruption, alors j'irai pas jusqu'à corruption, quoique.
C'est pour ça que je parle.
J'ai pas de preuves par rapport à Yara. Ce que je peux simplement vous dire, c'est ce qui me vaut des problèmes aujourd'hui, c'est que quand je parlais des lobbying agricoles, je ne l'ai pas cité parce que je ne sais pas qui est dans la salle, mais tant pis, je vais lancer un pavé dans la mare. C'est forcément la FNSEA, tout simplement, vous l'avez reconnu. Et bon, si je le dis, je vais avoir des emmerdements, donc tant pis, vous viendrez me défendre, vous m'accompagnez. Donc voilà, une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit.
Je ferai bien un complément à ce que vient de dire M. Noguier sur le lobbying. Je crois qu'il y a effectivement un lobbying au niveau de l'agro-industrie et de la FNSEA en premier lieu, mais la FNSEA n'est pas seule. Et il y a toute l'agro-industrie de la Bretagne qui est derrière. Hein. C'est bien au-delà d'un simple syndicat d'exploitants agricoles. Et il y a également la question du transport autonome du Mont-Saint-Nazaire, c'est qui est crucial sur la région, dans la mesure où il y aura en termes de logistique, de frais, représente un clients en intrant et en export au niveau du grand port de choix, plus tous les camions logistiques, IDA et je vous en passe. Donc la conjugaison de ces deux lobbies, du transport, du fret portuaire et de l'agro-industrie, ça fait vraiment beaucoup dans le rapport de force.
Bonsoir, Daniel Girard pour l'Union locale CGT de Saint-Nazaire. Je ne vais pas m'exprimer à la place des camarades de GIRA, mais en tout cas vous apporter quelques éléments de considération dans le débat, effectivement sur le fait que les salariés sont entre le marteau et l'enclume, que le gentil et sympathique nouveau directeur, il faut peut-être juste se rappeler quel est son rôle et pour qui il travaille. En premier lieu, il me semble qu'il travaille surtout pour l'entreprise GIRA, pas pour les salariés. Et que on jugera dans les faits comment ça va évoluer dans l'avenir sur sa gestion de l'entreprise. J'avais pas tomber note, mais là on parlait à l'instant d'éléments prédécesseurs sur les fermetures administratives. On en a un, ça s'appelle Saint-Exil, c'est à Calais, 2022. La boîte en fait a fermé. Le patron irresponsable, en tout cas les irresponsables qui géraient cette entreprise ont laissé à l'abandon. Et en 2022, elle a commencé à prendre feu. Donc, c'est pas pour dire que cette fermeture administrative ne réglera pas tout, mais en tout cas, elle déresponsabilisera l'entreprise IARA, qui, malgré les 36 millions, 46 milliards, enfin, pour donner les chiffres qu'on veut, de l'entreprise qui fait du déficit à Saint-Nazaire, enfin, à Montoire, c'est faux, l'entreprise fait des bénéfices. L'entreprise nationale, c'est une entreprise multinationale, elle fait des bénéfices. Je pense à l'entreprise Total, à la raffinerie Total de Longe, elle est déficitaire aussi. Et pourtant, vous n'êtes pas sans savoir, sous les millions de profits, les milliards de profits qui sont dégagés, notamment avec tout l'argent qui tombe à la caisse quand on passe à la pompe pour faire le plein de la voiture, c'est des jeux comptables qui sont malfaisants, qui sont malhonnêtes, et qui démontrent bien la responsabilité première qui est celle des donneurs d'ordre. Au niveau, il y aura Norvège certainement, mais en tout cas de tous ceux qui sont sous cette responsabilité, qu'ils soient à la tête de Yara France, ou, je tiens à rappeler, le directeur de l'entreprise qui n'est pas neutre. Donc certainement, il veut jouer sur la bonne volonté de montrer, faire un peu preuve de transparence sur cette entreprise Yara. Oui, il est besoin de le rappeler, c'est qu'on a quand même des salariés qui travaillent dedans, qui régulièrement se retrouvent avec des intoxications à l'ammoniac ou à d'autres produits, des brûlures aux acides, quels qu'ils soient. Et c'est le problème de notre pays, c'est que depuis qu'on a été mis en place la loi El Khomri, c'est la suppression des supra-érogatives des CHSCT. C'est-à-dire que les salariés n'ont plus vraiment les moyens de se défendre par les instances qui sont maintenant devenues des CSE. Et on arrive à un pays qui arrive à être champion du monde des accidents mortels au travail en Europe, avec de nombreux salariés qui perdent leur vie dans la construction, dans la chimie, dans l'industrie, dans de nombreux domaines. Et Yara est effectivement peut-être le sujet résurgent et le plus visible sur notre territoire. Et vous aviez montré au départ le plan que vous aviez sur l'ensemble du bassin nazarien. Il y a énormément d'entreprises. On n'a pas le record des entreprises Céveso, mais en tout cas on en a un sacré paquet qui représente tous les dangers les uns comme les autres, et qui demande une responsabilité extrême de la part des décideurs et notamment de la part des exploitants qui mettent les moyens. On ne parle pas d'investissement. L'investissement, peut-être, on sous-entend qu'on rajoute des moyens pour faire vivre le site et puis surtout qu'il fonctionne en totale sécurité. Non, c'est juste un devoir de fonctionnement de l'entreprise. Alors que ce soit IRA, que ce soit Total, parce qu'il faut en nommer, il y en a quand même un paquet, que ce soit les chantiers d'Atlantique ou Airbus, parce qu'aller travailler au chantier ou chez Airbus, on a aussi les mêmes problèmes de pollution et d'intoxication des salariés par différents produits chimiques et différents process qui sont nuisibles. Les salariés ne sont pas différents de la population. On a quand même eu la réforme des retraites sur lesquelles de nombreux salariés sont battus. Un bon paquet, on n'était pas dans la rue, ni à faire grève, ni à manifester. Je ne pense pas que ce gros paquet était d'accord avec la réforme. Ils n'avaient pas envie de travailler plus longtemps pour abîmer leur vie. Et bien dans ces entreprises, c'est pareil. Il y en a beaucoup qui ne se manifestent pas, mais qui n'en pensent pas moins, et qui attendent justement qu'il y ait des choses qui déclenchent. Et notamment le fait que des usagers, des associations d'usagers prennent les choses en main, qui ont toute légitimité pour défendre leur environnement et leur cadre de vie, ça peut être un moyen, effectivement, peut-être d'arracher le sparadrap un peu plus vite. pour faire évoluer les choses. En tout cas, que les décideurs prennent conscience, il ne faut pas se leurrer effectivement, c'est que quand la boîte à bénéfices ne fonctionnera plus, les justifications seront là pour fermer l'usine d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit par la force, par le fonctionnement normal ou par le manque de profit.
Ça va être difficile parce que je pensais qu'on allait pouvoir faire la transition avec l'intervention de Didier.
Je prends mon tête qu'on va essayer de poursuivre le débat sur le sujet pour répondre rapidement de façon plus expéditive, mais je vais répondre d'abord sur la question la plus facile, effectivement. Le besoin d'ammonium nitrate, il est présent. En fait, on n'a pas encore changé de mode d'agriculture, malheureusement. Et que cette usine qui fermera à Montoire, elle ouvrira ailleurs. Et nous, on pense particulièrement à des pays on va dire, où la protection des salariés et la protection de l'environnement ne sont pas en considération. Il y en a nombreux, il n'y a pas besoin de spécialement chercher au fin fond de l'Afrique, il y en a même plus proche de chez nous en Europe. Et que les conséquences qui seront locales, effectivement, nous toucheront plus, mais je pense qu'on partage le même environnement, on partage le même globe. Et que les dégâts qui se passent à 100 000 km de chez nous, finalement, on arrive à en avoir les conséquences. Les industries qui polluent dans nombreux pays comme la Chine, mais pas qu'en France, ont subi les conséquences notamment. Donc la solution, c'est peut-être de maintenir dans des pays où on a les moyens de forcer les entreprises à respecter leurs responsabilités. Après, ça ne marche pas, hein, parce que la France est un pays comme un autre. Hein. On a un intérêt capitaliste, c'est de faire de l'argent. Et que quand l'argent passera dans la considération de santé, on pourra parler au-delà. Et les moyens qu'on pourrait développer, notamment par le biais de l'action syndicale, les recours et puis le rapport de force qui peut exister dans l'entreprise, ça se construit. Parce que déjà, c'est pas facile, en tant que salarié de chez Yara, d'expliquer qu'on travaille dans cette boîte. L'image est plutôt fortement difficile à porter. En plus, se faire mettre en avant sur des actions qui pourraient être menées, c'est pas facile, ça se construit. Il y a des choses qui se font par les instances, même si elles sont relativement faibles. Mais oui, il y a d'autres modes d'action qui ont été faits. J'en pense notamment sur l'usine Sanofi dans le sud de la France. Mais pour l'instant, la question n'est pas là, parce que c'est pas quelque chose qu'on a pu échanger avec les camarades de chez IRA. Mais oui, on a aussi la possibilité de rentrer dans le jeu, pas spécialement pour demander une fermeture administrative, mais en tout cas pour faire répondre légalement l'entreprise vis-à-vis de la santé des salariés et des risques qu'ils vont courir.
Juste un truc que je voulais dire, vous avez dit tout à l'heure, ils nourrissent la moitié de la population. Alors, ils nourrissent la population même, hein, donc avec leurs engrais. Et, en fait, non. On importe en France la moitié des fruits et légumes qu'on consomme. Hein. Donc on voit que même ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on est bien obligé, si on veut manger des fruits et légumes, de quand même importer la moitié. Voilà le déficit agricole de la France.
Moi, je fais partie de l'association qui s'appelle Vivre à Méantin-Ouette, pour que vous sachiez qui je suis et d'où je parle. Je pense que ce qui se passe ce soir, c'est extrêmement important parce que ça fait des années qu'on bataille justement sur la question de l'emploi. C'est pas sur la question de l'emploi, mais la question de l'emploi, elle vient toujours en avant quand on parle des dangers de la pollution. Et je pense que ce qui se passe ce soir, qui est la
suite logique de ce qui est à l'œuvre depuis un certain temps avec l'investissement d'un grand nombre d'associations, de riverains, de militants, etc. C'est très important et notamment je trouve que ce qu'a dit M. Noguet ce soir, c'est essentiel. Ça montre que ben, quand on a du courage, on n'arrive pas forcément à tout, mais c'est le début de quelque chose. Et la question, c'est pas de vouloir faire peur aux gens. C'est pas de faire peur, c'est que de prendre conscience que ces risques-là, ils existent, de ne pas se mettre la tête dans le sable, et puis qu'on va pouvoir avoir peut-être un futur un petit peu moins dégueulasse si on accepte de faire face aux risques qui existent, en sachant qu'effectivement, il ne s'agit pas de se battre contre les employés. Et que si les gens risquent leur boulot parce qu'ils travaillent dans des conditions dégoûtantes et ou avec des risques, les associations qui mettent en avant, qui essayent de mettre le projecteur sur tous ces risques-là, c'est pas contre les employés, mais c'est aussi pour que les gens simplement puissent vivre, parce qu'un travail c'est bien, mais vaut mieux vivant.
Avant de passer la parole à Didier, moi je voudrais dire que nos relations avec les salariés de l'ERA, nous ne demandons qu'à les développer. On a déjà rencontré un certain nombre d'entre eux, et si tout le monde est d'accord, elles peuvent continuer. Donc il n'y a pas d'omerta de notre part vis-à-vis de ces salariés, mais il faut-il encore qu'on soit les uns et les autres de bonne foi. Qu'on regarde bien les choses en face. Parce qu'on a lu effectivement ce matin le communiqué que vous avez fait passer, hein, je parle aux représentants de la CGT, tout à fait d'accord pour dire que les salariés devraient jouir d'un outil de travail dans les normes et respectueux de l'environnement. C'est tout ce que nous faisons depuis un certain nombre d'années. Il se trouve, et j'en ai terminé, il se trouve qu'il y a quelques années, on a eu dans notre boîte aux lettres toute une série de documents de façon tout à fait anonyme qui émanaient de chez l'ERA, des salariés de chez l'ERA, il y avait la CGT, la CFDT. Nous, on avait été surpris, et c'est peut-être justement après qu'on a pris contact avec, qu'on a essayé de prendre contact avec les salariés, on a été surpris du ton utilisé et des inquiétudes qui étaient exprimées par les salariés. Alors effectivement, bon, c'est bien de constater, mais faut-il aussi que sur place, alors j'imagine c'est pas facile, etc., mais que sur place, on ne soit pas opposés les uns aux autres, mais que l'on fusionne et que l'on mène des actions, disons, conjointes. C'est le choix que l'on fait depuis longtemps et qu'on rappelle ce soir. Voilà. Avant de... Oui, ben, je passe la parole maintenant à Didier. Je viens de parler du...
Bonsoir, donc je m'appelle Didier, de la Ligue des droits de l'homme, également membre de Vif Armée en Pérouette, également membre de l'association de Donge. Donc, effectivement, tout à l'heure, en attendant, vous aviez vu une carte qui montrait bien le côté industriel de la Carène, et qui montre bien qu'il n'y a pas que Yara, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres entreprises. Et cette carte-là, je l'ai montrée, enfin, on l'a faite suite à l'étude de zone pour le recensement d'une 150aine de sociétés. On a recensé les polluants qui sont émis. Et cette carte a pour vocation de montrer à tout un chacun, en fonction de l'endroit où il habite, à quoi il est exposé. C'est toutes les entreprises ne travaillent pas mal, il y en a qui travaillent bien, mais en tout cas, beaucoup relâchent des polluants. Donc ça peut être intéressant de savoir, en fonction de l'endroit où on habite, quels sont les polluants qu'on peut recevoir en fonction des vents, soit des vents d'ouest, soit des vents de nord-est, par exemple. Ça, c'est à situer, donc c'est accessible sur un site internet que vous retrouvez tout à l'heure. Donc ça, c'était le premier point, vous alerter sur le risque de pollution de l'air qui existe. Donc dans mon propos là, je vais effectivement oublier Yara, je vais vous parler d'autres risques industriels auxquels on est confronté. Des risques industriels que j'ai appelés avérés, parce qu'on les a déjà rencontrés. Vous allez voir, effectivement, que vous avez déjà, enfin vous, certains d'entre vous, ont déjà pu subir des pollutions, subir des atteintes à leur santé. Alors, pas des atteintes mortelles, mais peut-être qu'à force de subir des atteintes, un coup par-ci, un coup par-là, c'est peut-être ça qui fait qu'on a une surmortalité prématurée de 28% dans la Carène. Et qu'apparemment, ça ne bouge pas, d'après les derniers chiffres que l'ARS nous a pas encore donnés, mais qu'on chiffre dehors, ça ne bouge pas beaucoup. Donc, quelques exemples de situations qu'on a vécues, d'autres risques industriels. Donc là, ça parle d'un risque avéré d'incendie. Donc certains d'entre vous ont peut-être connu l'entreprise GDE, qui maintenant s'appelle Durichbourg, et qui en mai 2020 a eu un incendie, donc vous avez une photo qui est là. Cet incendie a été caractérisé par un communiqué préfectoral comme pas forcément de grosses problématiques de toxicité malgré les odeurs et malgré les fumées dégagées. Donc le nuage de fumée, ça a commencé ce soir, ça a duré toute la nuit. Et le nuage de fumée, il part de GDE qui est à côté d'Airbus, moteur de Grenaille, il est allé jusqu'à l'estuaire. Le même appendiché, on le voyait. Donc voilà, un gros nuage. Le préfet dit pas de problème, c'est cool. À partir des informations que j'ai, il n'y a pas de problème. Quand on regarde le dossier deux mois après, trois mois après, qui a été fait, avec les quelques mesures qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait que les pompiers avaient prélevé un petit peu d'air, je crois que c'est vers l'école Lamartine, dans un récipient, et cet air a été analysé, enfin les fumées. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que la densité, la concentration de dioxyde de soufre était supérieure à ce qu'on a au seuil d'effet irréversible. En français, ça veut dire quand vous êtes au-dessus de cette valeur de 330, ou de SO2, d'excès de soufre, ça veut dire qu'il y a un impact sur la santé. Alors, ce n'est pas forcément mortel, mais ça peut abîmer un petit peu vos poumons, par exemple. Donc ce seuil a été dépassé, contrairement à ce qu'avait dit le préfet le premier jour, donc il y avait un impact sanitaire sur certaines personnes. Mais on n'en a rien dit. Pourquoi on n'a rien dit? Parce que ce seuil, il est valable quand on est exposé 10 minutes, et que le prélèvement n'a duré que 2 minutes. Donc, alors que la personne qui a respiré, ça a duré 2 heures. Hein. Donc la personne respire 2 heures, la mesure ne dure que 10 minutes. Ah, 10 minutes par rapport à 10 minutes, donc on ne peut rien en tirer. Voilà. Donc on a enterré le fait que des personnes de Saint-Nazaire, principalement, ou du village de Gron également, je crois qu'ils étaient très impactés par ça, ben on a enterré le fait que certaines personnes ont subi un impact sanitaire. Donc ça, c'est le risque incendie. Donc GDE de Richebourg, c'est tous les ans, hein. Mai 2020, janvier 2021, novembre 2022, j'attends 2023. Bon, tous les incidents ne sont pas avec la même gravité, mais ça peut arriver. Dans les fameux rapports géorisques, les rapports d'inspection, on voit que tous les bâtiments 71 avenue Henri Gauthier, la route qui va de Bellevue à Montoire, ben, tous ces bâtiments sur la gauche, il n'y a pas de gestion incendie. Et pourtant, ça comporte 600 tonnes de matière inflammable, d'après le rapport de l'ADREA. Bon, l'inspection a été faite, bonne nouvelle. Est-ce que ça a été corrigé? Est-ce qu'il y a de l'incendie? En général, ça met 6 mois, 1 an, 2 ans pour que ce soit fait. Voilà le premier risque. Donc, le message de ça, c'est attention, dès qu'il y a une fumée noire comme ça, il y a forcément des problèmes. Hein, faut pas se cacher. On a appelé ça que c'est un incendie de métal. Essayer de faire brûler du métal, moi, je n'arrive pas à faire des fumées noires avec du métal comme ça. Ça, c'est forcément des hydrocarbures, des batteries qui ont brûlé, c'est pas du métal. Et qu'est-ce que ça reflète? Ça reflète qu'on n'a pas de station permanente sur la zone de Saint-Nazaire qui mesure les concentrations de SO2. Si on avait une station qui mesurait en permanence, en continu, la densité, les concentrations respirées de SO2, de COV, de benzène, etc., on en verra, ben là, le préfet ne pourrait pas dire qu'il n'a pas l'information, puisque l'information serait disponible immédiatement en temps réel. On a besoin de ces capteurs-là, et malheureusement, il n'y en a pas. On y reviendra. Deuxième cas de risque qui peut arriver, pas qui peut arriver, qui sont arrivés, hein, c'est le risque de défaut de maintenance. On en a parlé avec Clara. La maintenance, très clairement, elle n'est pas très bien faite. Quand on voit que les tuyaux qui ont été changés le 15 juin, ils tombent en panne le 30 juillet. 45 jours après, le tuyau est en panne. Il y a quand même un problème. Donc là, ça, je vous prends un exemple qui a été cité par... Le Total, petite entreprise de Longes, qui le 21 décembre dernier a eu un accident. Eux disent incident, moi je dis que c'est un accident. Un accident puisqu'il y a un gros flux de stockage, le P551, qui a fui. Et qui a fui, selon le préfet, le lendemain à 19h, qu'est-ce que c'était la fuite? Une fuite d'essence à la raffinerie. Il a parlé d'odeurs ressenties depuis hier soir autour de la raffinerie qui se sont largement estompées. Donc 24 heures après, il vous dit tout bien. Ça, c'est la photo qu'on a trouvée dans un rapport d'inspection. C'est un terrain de foot, hein. C'est pas une mare autour d'un bac à sable. Et ça reflète l'ensemble du liquide qui est sorti du bac et par-dessus des mousses d'extinction. Hein. Donc le préfet continuait. Les dernières mesures de la qualité de l'air réalisées confirment qu'il n'y a pas d'impact sanitaire sur la population. comme d'habitude, ou comme le plan de la fois d'avant, on voit bien que le discours préfectoral, le lendemain, c'est dire, avec les informations que j'ai, entre guillemets, que je n'ai pas, tout va aller. Bon, là encore, qu'est-ce que l'on... Un mois après, deux mois après, on regarde les dossiers, on les demande à Pays de la Loire ou ailleurs, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le préfet, il a gardé les éléments de langage qui ont été fournis par Total, à savoir des odeurs d'essence, hein, odeurs ou essence, alors que les services de la préfecture savaient pertinemment que ce bac ne contenait pas de l'essence banale, mais contenait du nafta. Alors certes, le nafta, c'est une essence. C'était de l'essence. Mais surtout, ce nafta, il y a une fiche dessus qui était très clairement marquée, contient du benzène cancérigène. Et ça, les services de l'État le savaient très bien. Le soir de l'incident, à 23h12, quand ils ont appelé Ineris, on le savait. Mais le préfet n'a pas parlé. On a dit que c'est une odeur d'essence. Voilà. Les mesures fiables qui ont été communiquées par Air Pays de la Loire, donc il y a eu des mesures qui sont faites avec des appareils portatifs, mais il y a des mesures fiables avec des appareils performants, calibrés, ont prouvé que le seuil de 30 microgrammes par mètre cube, un seuil de toxicité aiguë, si on écoute l'organisme national Ineris, pour une exposition de 1 à 14 de jours, ce seuil a été largement dépassé pendant, en moyenne, 5 jours. Or, depuis 9 mois, ça discute autour de ça. Le préfet avait imposé à Total de nous faire une étude sanitaire. Normalement, ça se fait dans le mois qui vient. Ben là, 9 mois après, l'étude sanitaire n'est toujours pas sortie. Alors qu'on a la preuve, donc, que les Donjois, tous les Donjois du Sud, là, ils en ont eu pendant 5 jours, tout ça. Donc là, aucune information d'alerte, aucune protection de la population, à part quelques petits discours dans la rue pour les quelques joueurs debout ou les enfants qui étaient près les plus exposés. Aucune communication de l'ARS, aucun suivi sanitaire. Ça fait 9 mois que ça dure. Donc il y a quand même un problème. Et là aussi, le problème, il vient de quoi? Donc en termes d'impact sanitaire, donc c'est un impact sanitaire qui est certain, quand on regarde les chiffres du virus. En plus, comme c'est un produit cancérigène, il n'y a pas d'impact sanitaire immédiat, mais il y a un accroissement des risques d'avoir des cancers. Des cancers dans la carette, il y en a. L'impact sanitaire, ce n'est pas moi qui l'invente. Là, je vous ai remis l'extrait de l'ANSES, la VTR. Et en plus, on y a rajouté des PFAS pour éteindre des mousses incendies. Et là non plus, aucune information sur les mousses que les Donjois récupéraient dans leur jardin. Il y a de la mousse. On vous dit que c'est un polluant éternel, on vous dit que c'est dangereux, mais on ne vous dit pas quoi faire. 9 mois après. Donc il y a effectivement un problème. Le problème, c'est, on en y reviendra, mais c'est avant tout d'avoir des éléments de mesure importants et puis d'avoir des décisions basées sur ces éléments de mesure. Et y compris des mesures de protection de la population, quand même, c'est important pour éviter les impacts sanitaires. Troisième exemple de risque industriel auquel on peut être confronté dans notre carène industrielle, dont on peut être fier, c'est les chantiers de l'Atlantique. On a découvert en mars 2023 que les chantiers de l'Atlantique avaient, en 2022, le projet de ce qu'ils ont appelé Pôle Sud intégré, qui consiste à faire un nouveau bâtiment près de la Loire. Intéressant ce bâtiment, ça vise aussi à réduire des pollutions, donc l'idée est probablement très bonne. À l'occasion des travaux de ce bâtiment, Pôle Sud intégré, ils ont trouvé que les sols étaient pollués. C'est pas complètement normal, c'est là qu'ils géraient leurs déchets. Bon. Donc, dans le rapport qu'on a trouvé en 2023 sur des fêtes qui se sont passées en 2022, il est écrit que le risque de pollution hors site n'est pas exclu. Donc, on a une pollution des sols et des eaux souterraines sur le site des chantiers. On a un document qui nous dit « Ah ben, ça peut sortir des chantiers ». On s'attend, il est même écrit qu'on va peut-être investiguer autour. Dans le rapport, il est écrit « On va investiguer ». Mais il est écrit dans le rapport, ça s'est arrêté à la route. Ils ne sont pas allés regarder s'il y avait de l'eau souterraine qui avait été polluée à côté. Bon, aucune investigation n'a été faite ni par les chantiers. J'ai demandé à l'ADREAL, est-ce que vous avez prescrit quelque chose? La réponse est non. Bon, là-dessus, sur ces entrefaits, sur ces fêtes, on s'est quand même inquiété à Méhan-Penouette. Donc l'association Vivre à Méhan-Penouette a décidé de faire réaliser l'analyse de deux puits. Des puits privés là, que chacun peut avoir et arroser son potager avec. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Une très forte concentration en arsenic. La concentration d'eau potable en arsenic, c'est 10 microgrammes. Là, on est à 100. 100, c'est de l'eau qui n'est même pas potabilisable. Qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit à l'ARS. Enfin, avant, pas écrit à l'ARS. L'ARS a répondu quoi? Bah, donnez-moi les rapports d'analyse et puis les adresses des personnes chez qui vous avez mesuré. Bon, on ne s'attendait pas à ça. Hein. Bon, on leur a bien envoyé les rapports d'analyse et on a envoyé simplement la rue, on ne leur a pas dit chez qui c'était. Donc, bon, l'ARS a quand même confirmé que l'eau ne doit pas être utilisée pour les potagers, on ne doit pas arroser, on ne doit pas l'avoir, ça vous savez. On ne doit pas arroser le potager, on ne doit pas remplir les mini-piscines des enfants, parce qu'au mois de juillet, août, quand vous avez des enfants, vous leur donnez une cuvette, vous mettez un peu d'eau, c'est plus pratique dans le puits, c'est dans le jardin, et vas-y, amuse-toi. Le petit enfant de 2 ans, il en prend. Bon, voilà. Et on attend toujours les recommandations de l'ARS pour officialiser que ça peut concerner tout ventre. On ne sait pas si c'est des chantiers ou pas, probablement pas. On ne sait pas d'où ça vient. Il y en a qui vont nous dire c'est historique. Et si c'est historique, ça veut dire qu'on savait que c'était déjà comme ça. Et si on le savait, pourquoi on ne l'a pas dit? Pourquoi on n'a pas dit qu'il fallait ne pas arroser son jardin avec de l'eau polluée en mettant pénouette? J'ai plein de questions là. Effectivement, je ne vois pas l'ARS demander à mesurer plus de pluie en mettant pénouette et même dans sa nanère, parce que les nappes souterraines, c'est souterrain, hein. Ça bouge. Hein. Et il n'y a pas d'alerte à la population, il n'y a pas de mesure supplémentaire. C'est un peu curieux, on attend. Il y a une réunion qui est prévue le 18 octobre où la Carène va parler de la santé dans la Carène. Il est clair que cette question-là, on la retrouvera. Voilà, donc, autre exemple encore de risque auquel on est confronté dans les habitudes, donc des habitudes qui peuvent être changées, les chantiers, quand ils avaient leur terre polluée dans leur projet, qu'est-ce qu'ils ont fait des terres polluées? Bah, il y avait deux solutions, soit on les évacue et ça coûte de l'argent, soit on en fait un beau merlon. Un merlon, c'est un tas. C'est un tas. Normalement, d'après l'inspection, ce merlon doit être confiné, c'est-à-dire entouré de bâches étanches pour pas que la pollution sorte. Donc ça, c'est un rapport, une photo prise par l'inspectrice intellectualité des chantiers de l'Atlantique. Vous voyez l'état du merlon. Donc quand il pleut, l'eau va peut-être en prendre un petit peu de pollution que dans le merlon et l'emmener dans les eaux souterraines. Donc ça, c'était le mois de juin. Et ça, c'est quand je suis passé, moi, au mois de septembre. Donc, j'ai envoyé la photo à l'Adréal. Bon. Il paraît qu'ils sont en cours. Donc, je ne suis pas retourné. Si, je suis retourné. Bon. Ils ont effectivement commencé à mettre un petit peu des bâches. Mais c'est toujours pas fini. Vous voyez ? Donc là, bon, c'est pas fait en 5 minutes. Mais manifestement, c'est pas fait rapidement. Entre mars 2022, début 2022 et maintenant, ça fait quand même pas mal de temps. Où le merlon, il est là, il n'est pas protégé, et la pollution continue. Donc je pense, pourquoi je vous ai montré ça, c'est bien pour vous montrer que les risques, ils existent, pas chez Lara en particulier, on a effectivement un très mauvais élève, mais il y a aussi d'autres entreprises qui se veulent être bons élèves, qui ont quand même des marges de progrès devant elles, pour que notre santé soit un peu protégée. Parce que des incendies, comme je vous l'ai dit, ça peut arriver, des maintenances... ils vont pas bien, ça arrive. Chez Total, il y en a pas mal. Des tuyauteries qui ne sont pas entretenues, il y en a beaucoup. Je ne parle pas d'IARA, ben, il y en a plein. Hein? Toutes les entreprises cherchent, la CGT l'a bien dit, hein, cherchent le profit d'abord. Bon, donc nous, c'est notre boulot que de leur rappeler tout ça. La santé d'abord. Et nous, on doit faire attention par rapport à ça. Il faut qu'on le dise, il faut qu'on le voit, il faut qu'on en parle. Et sur la pollution de l'air, c'est également important. Je le fais la pas l'autre partie que j'ai ou...
Non, pardon,
d'accord, j'arrête. Donc s'il y a des questions.
Est-ce qu'il y a des. Voilà. Il y a des questions sur la partie de... développée par Didier.
Moi, c'est sur l'augmentation des cancers. Dans notre région, il y en a plus que la moyenne nationale. Mais est-ce qu'on a précisé de quel cancer il s'agit? Parce que ce serait intéressant de savoir si c'est des cancers des poumons ou d'autres choses qui sont en beaucoup plus grand nombre qu'ailleurs.
Il y a beaucoup de cancers qui sont concernés. Moi j'ai regardé pour être un jour, bon après on va répondre. Moi j'ai regardé, en fonction des activités de l'entreprise. Des entreprises de métallurgie, des entreprises de soudage, des entreprises de carrière. J'ai regardé quels sont les cancers qui sont souvent générés par ces entreprises-là. Et j'ai comparé ces cancers avec ceux que l'ARS avait trouvés. Ça colle. Et c'est pas un cancer, hein, c'est plusieurs cancers. Vous avez les cancers du rein, les cancers du poumon, les maladies cardiovasculaires. Quand on parle de quels sont les métiers, quels sont les cancers associés à ces métiers-là, et ça, c'est des documents de l'ANSES, c'est pas moi qui les prends, ben, comme par hasard, on retrouve les cancers qui ont été repérés dans la CAREN par l'ARS dans les différents rapports en 2019. Mais il y en a plein, hein, c'est pas qu'un seul cas.
On va passer la parole à Juliette, alors. Ah, il y a une question ?
Non,
ah, tu veux
pas.
Excusez-moi.
Et pour tout le monde, soit un peu au fait, peut-être, sur ces histoires de surinfection par cancer. Quand on est tombé là-dessus en 2018, il y avait deux choses. Il y avait une surinfection de 28% chez les personnes de moins de 60 ans par cancer sur les bassins de la carène. Et il y avait une surinfection également pour tout ce qui était maladie des voies respiratoires. Donc c'est ce qui nous a fait dire, si cancer plus voies des respiratoires, il y a bien un problème par rapport à la contribution de l'air sur le bassin de la carène. Par rapport à ça, notre première réaction, ça a été de dire, on va demander une étude épidémiologique. Une étude épidémiologique, c'est demander aux services compétents d'où viennent ces surinfections pour déterminer les origines et combattre les origines. On nous a dit, c'est pas possible. Et on nous a dit, si, c'est pas possible, de la même façon qu'on a dit à Sainte-Pazanne sur les cancers pédiatriques, c'est pas possible, etc. Mais quand même, comme on est sensible à cette question qui pose un problème de santé publique important, on va faire une étude de zone. Une étude de zone, c'est-à-dire que depuis 3 ans, on se retrouve avec des industriels, les services d'État, les collectivités territoriales, les associations, pour essayer de déterminer l'origine des affections sur la population et sur l'environnement des activités humaines. Et ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus. Il y a tellement de données sur le bassin de Saint-Nazaire que là, on est en fin de première phase de cette étude de zone. On va arriver à un truc où, du genre où il y a tellement de données qu'on ne peut pas aller plus loin et pas tirer en fait de l'étude. Donc ça, c'est un peu notre frustration sur le boulot qu'on avait fait au niveau des associations pour avoir les études de zone. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer la bataille sur ces questions sanitaires et santé publique, parce qu'il y a un vrai problème, et là je pense qu'on va avoir davantage de précision.
Juste un peu en arrière sur la question de la qualité de l'air et la question de la mesure de la qualité de l'air. On a évoqué la question des capteurs qui n'existeraient pas ou qui existent à majeur. C'est quoi la réglementation, c'est quoi au plan institutionnel, qui décide de l'installation des capteurs? C'est vrai qu'a priori, on a déjà un peu l'information, il suffit de regarder sur son smartphone. Les applications de météo, en général, donnent aussi un point de vue sur la qualité de l'air et on voit très régulièrement qu'à Saint-Nazaire, la qualité de l'air est dégradée. Mais qui mesure la qualité de l'air? Où la mesure-t-on? Qu'est-ce qu'on fait de ces décisions?
Je peux vous renvoyer sur mon site pollution.hot.fr, mais première réponse, la qualité de l'air, c'est la Pays de la Loire qui la mesure. Sur Saint-Nazaire, si je vais de côté d'Onge, la qualité de l'air qui est mesurée, c'est une qualité de l'air urbaine, comme dans n'importe quelle commune de France et de Navarre. Donc on va vous mesurer la pollution de votre voiture, de votre chauffage au bois, du transport routier, etc. Donc on va vous mesurer la pollution basique. Hein, dioxyde d'azote, je vous donne les bons mots, dioxyde d'azote, particules fines, etc. Mais c'est tout. Or, la problématique de Saint-Nazaire, c'est pas simplement votre chauffage au bois ou votre voiture, votre diesel, etc. Bon, c'est des particules ultra fines, la fumée de soudage, c'est ultra fin, c'est des métaux lourds, de l'arsenic, du cadmium, de nickel. Hein, des solvants, avant de souder, on nettoie le métal avec un solvant. Bon, ça, c'est pas mesuré. Quand on fait de la peinture avionique, on va vous chercher du chromate de strontium pour de faire de l'anticorrosion. Ça, les métaux lourds, c'est pas mesuré. Et ça fait pas partie de l'indice de la qualité de l'air. Donc, Saint-Nazaire, c'est le fleuron industriel de la région de la Pays de la Loire, mais la mesure de la qualité de l'air, c'est comme si vous étiez au fin fond de la Vendée.
Voilà. Et, alors, et je vous ai mis ici, on a 45% des émissions de nickel de la région sont faites à Saint-Nazaire. Donc ces spécificités-là ne sont pas mesurées. C'est bien pour ça qu'on demande dans l'étude de zone, mesurer la pollution qui n'est pas mesurée. C'est bête, hein ? Qui décide ? Bah, RPI de la Loire va vous dire, j'applique la directive européenne et j'ai pas d'argent. C'est un peu ça. Effectivement, il faut pousser une gueulante. Il faut dire, et oubliez pas, on est industriel. Et normalement, alors, pourquoi j'ai dit donc Total, l'État a imposé à Total un plan de surveillance autour de la raffinerie qui couvre un peu la partie habitation. Pourquoi il n'y a pas eu l'imposition par l'État au chantier de l'Atlantique, au Grand Port, à Airbus, de mettre en place un plan de surveillance environnementale? Je ne sais pas. Ça fait 3 mois, 4 mois, 6 mois qu'on le répète à l'Adréal, qu'on le répète au sous-préfet. Ils ne veulent pas l'entendre. Pourtant, c'est fait partie du basique. Hein, c'est fait pour Total. Pourquoi c'est pas fait ici? Ah, ça coûte de l'argent. Ah non, ça permettrait de savoir ce qu'on respire. À mon avis, c'est ça. Ils ne veulent pas savoir.
On a bien le pavillon bleu pour la mer.
Mais non, le pavillon bleu, qu'est-ce qu'on va regarder dans le pavillon bleu? Uniquement le bactériologique.
Eh bien, il devrait faire pareil.
Mais voilà. Mais pour les métaux lourds, je vais encore vous donner des trucs qui vous font faire peur. La seule mesure des métaux lourds, elle est faite à la pointe de Chemoulin. Hein, et là, dans les moules, dans les huîtres qu'il y a là-bas, on dépasse la médiane nationale avec du cadmium, du nickel et du PCB 153. Bon, c'est pas des seuils dramatiques, mais on a bien beaucoup plus de métaux lourds dans l'eau de baignade. Mais là encore, on ne le mesure pas. On mesure que les Escherichia coli, le bactériologique. Et avec ça, on a un pavillon bleu. Là, je me bagarre à Pornichet, bon, pour le moment.
Il y a monsieur...
Oui, je viens répondre par rapport à ce que vous dites, monsieur, pour peut-être tempérer certaines choses. Ça n'empêche pas, en effet, la problématique que la vue. Je suis Claude Auffort, je suis maire de Trignac et je suis vice-président de la CAREN, chargé de la transition énergétique, climat, air, énergie et santé, donc, et qui suit particulièrement le contrat local de santé intercommunale qui est en train de se monter actuellement. Donc, on se croise souvent avec les associations et on était longtemps aussi à RPI de la Loire. Alors, RPI de la Loire, c'est en effet un outil qui peut être au service donc soit autant des entreprises, soit des municipalités, soit des territoires. Déjà, il faut dire qu'il n'y a pas d'automaticité à ce que, par exemple, la CAREN adhère à Pays-de-la-Loire. Pays-de-la-Loire, il vit, à Pays-de-la-Loire, il vit grâce aux cotisations alors, des entreprises sur un taux de pollution qu'elles génèrent, et puis parce qu'il y a un certain nombre de collectivités qui payent à Pays-de-la-Loire pour lui permettre d'avoir des ingénieurs, d'avoir des instruments de mesure. Après, évidemment, c'est comme tout, les budgets sont peuvent être limités. On a rajouté des choses, on a dans le travail de l'étude de zone, on a pointé qu'à certains endroits, il faudrait plus de capteurs permanents. Donc tous ces points qui sont insuffisants, en effet, se travaillent. Il ne faut pas dire qu'il n'y a rien là, mais ça se travaille. Après, vous l'avez dit les uns les autres, là, ces questions-là sont hyper complexes. Et pour bien préciser, l'étude de zone, elle n'est pas une étude épidémiologique, elle vient en premier niveau et elle ne viendra pas dire on a vu telle pollution qui conduit à tel cancer. Elle ne viendra pas dire ça. Elle viendra essayer de caractériser les polluants qu'on trouve dans l'air, le sol, etc., d'où ils peuvent venir. Voilà, c'est ça qu'elle viendra dire. Et c'est après, donc les élus, mais comme les associations, nous, on va insister après pour qu'il y ait une possibilité d'études épidémiologiques, mais fondées sur les résultats d'études de zone. C'est pour ça qu'on essaie qu'elles soient le plus sérieuses possible. Pour finir sur mon intervention, je ne vais pas être trop long, mais donc ça veut dire que les élus sont bien au travail là-dessus. Après, on n'est pas tous d'accord entre nous, hein, mais les élus sont bien au travail là-dessus. Il y en a des plus impliqués que d'autres. Et un des boulots des élus, c'est de permettre aussi aux associations de participer à ces instances-là pour faire entendre des choses qui sont différentes que ce que nous on dirait. C'est cette question démocratique qui, pour moi, est importante. Le fait que vous puissiez être à l'ERP de la Loire, que vous puissiez participer à l'étude de zone, avec toutes les limites que ça, on n'est pas tout le temps entendu à 100%, comme les associations ne sont pas entendues à 100%. Et le travail des élus, c'est de dire, ces associations-là, elles ont droit au chapitre, et il est important qu'on les écoute, à côté des experts, à côté des pays de la Loire, à côté des élus, etc., etc., et de l'État, Montréal, par exemple, et des industriels. Voilà ce que je voulais dire mais je partage une grande partie de ce que vous avez dit.
Je pense qu'on va peut-être... Oui, je vois la main qui se lève, mais bon, Juliette, là, elle a des choses à dire, mais peut-être gardez votre question et on vous reprend après.
Bonjour à tous. Donc, du coup, je voulais vous parler un petit peu des risques de santé qu'on observe sur donc, la Carène, qui est la grande zone de Saint-Nazaire, Bange, Montfort, Crignac et des communes environnantes. Donc c'est une zone qui est marquée par un taux de cancer qui est effectivement extrêmement élevé, puisqu'on a 20% de cancer, de mortalité par cancer en plus qu'en France, et 9% de mortalité cardiovasculaire. Pour les cancers, c'est la première agglomération commune, celle où il y a les taux les plus élevés par rapport au reste de la Loire-Atlantique. Et donc, pour répondre à la question de tout à l'heure, en fait, ça se concentre sur certaines localisations, donc c'est essentiellement le poumon, ce qu'on appelle les voies aérodigestives supérieures, c'est-à-dire larynx, pharynx, bouche, sinus, dans une moindre mesure, le colorectum. Alors, déjà, je vais essayer de vous faire un petit topo sur ce qu'on sait sur le plan scientifique, sachant qu'il y a toujours beaucoup de limites méthodologiques sur tout ce qui va être les expositions environnementales. Pourquoi ? Parce que si vous faites une étude sur les cancers dans votre service de cancérologie, bah autant c'est très facile de demander aux gens « Est-ce que vous avez fumé pendant votre vie ? Combien de cigarettes ?» etc. Les gens, ça vous répond. Si vous posez la question « Est-ce que vous avez été exposé à la pollution ?» Voilà, vous serez bien en peine de répondre, et bah les patients, c'est pareil. Donc en fait, on ne peut pas faire comme ça. Il y a des gens qui ont réussi à faire des études dans des endroits où il y a eu des modélisations assez complexes pour savoir à quoi les gens avaient été exposés au cours de leur vie. Il y avait par exemple plus de mesures sur l'eau, plus de mesures sur l'air, etc. Et donc de ça, on va pouvoir tirer des informations. Sachant que ce n'est pas toujours exactement transposable pour plein de raisons. Par exemple, parce qu'il y a des études qui ont été faites dans des endroits où il n'y avait pas les mêmes polluants. Voilà, pour toutes ces raisons-là. Et puis aussi parce que les polluants peuvent être très mélangés. Par exemple, c'est très difficile d'étudier l'impact du dioxyde de soufre spécifiquement. Parce qu'en général, vous avez aussi une pollution en particules fines qui est associée. Donc savoir qu'est-ce qui est lié aux particules fines, dont on sait aussi qu'elles sont cancérigènes, et puis qu'est-ce qui est lié au dioxyde de soufre, ça peut être très très compliqué. Donc pour beaucoup de choses, je dirais qu'on a des hypothèses et qu'on ne peut pas conclure. Voilà, donc en fait, on m'avait demandé de parler plus spécifiquement de deux entreprises, Yara et Total. Donc Yara, c'est une entreprise donc, qui, comme ça vous l'expliquez, est connue pour sa pollution aux particules fines. Quand on regarde vraiment les rapports d'Air Pays de la Loire, on se rend compte en fait que la moyenne de particules fines sur l'année à Bourges n'est pas beaucoup plus élevée que dans des zones urbaines comme Nantes. On est autour de 15-20 microgrammes par mètre cube en moyenne par an. Par contre, on a énormément de pics. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ces pics? On sait que ça peut être l'occasion des compensations respiratoires, notamment chez des personnes qui ont des asthmes ou des bronchites post-allergiques obstructives, qu'on appelle la DPCO. Et on sait aussi que quand il y a des pics de pollution, ça a été étudié, il pouvait y avoir des pics de mortalité cardiovasculaire, donc des AVC, des infarctus, etc. Sur l'exposition à long terme aux particules fines, on sait que c'est à risque de cancer du poumon notamment, que ça peut engendrer des maladies cardiovasculaires et que ça peut également engendrer des diabètes et tout ce qui est maladie neurodégénérative, par exemple la maladie d'Alzheimer. Par contre, on est très en mal pour dire est-ce que le fait d'avoir des pics, c'est plus un risque que d'avoir une exposition continue. Et ça, vraiment, on n'est pas capable de le dire, parce que c'est extrêmement compliqué à étudier. Parce qu'en fait, c'est assez rare les zones où il y a plutôt des pics plutôt qu'une exposition continue. Voilà. On sait aussi qu'au niveau d'IARA, les particules fines sont composées de nitrate d'ammonium. Est-ce que le nitrate d'ammonium, outre le fait que ce soit une particule fine, est en soi dangereux dans l'air? Ça, on n'est pas capable de le dire. Il y a très peu d'études, elles sont anciennes et elles ne sont pas concluantes. Donc c'est difficile de savoir. Par contre, si on parle un petit peu des chantiers, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, là on sait que les particules fines vont contenir des poussières de métaux, et ça on sait que ça a une toxicité propre, le fait qu'il y ait des poussières métalliques, par exemple d'italium ou des choses comme ça dedans. Ça on sait. Et puis là, il y a un deuxième type de pollution qui est la pollution aquatique, le fait qu'il y ait des nitrates d'ammonium qui partent donc, au niveau de la Loire. Et puis surtout, en fait, Yara, à un moment, va exporter ces nitrates qui vont partir sur tout le territoire. Et donc, en fait, il y a une politique depuis que les engrais essentiellement sont commercialisés, les engrais modernes, qui est de dire aux agriculteurs qu'ils prendraient le plus possible et jamais, on n'en met jamais trop. Sauf qu'évidemment, l'excès en fait, va être décidé et va partir dans les rivières. Et donc, c'est ce qui est notamment, c'est une des raisons aujourd'hui pour lesquelles on a toute la pollution aux algues vertes. Parce qu'en fait, quand vous augmentez les taux de nitrate dans les eaux, il y a certains micro-organismes, dont ces fameuses algues vertes, qui sont particulièrement bien proliférées. Et donc, peut-être que j'en ai certains d'entre vous qui ont vu le film ou la BD. Et donc, en fait, quand ces algues se décomposent, on a du sulfure de hydrogène qui se forme. Et ça peut être mortel pour la faune, mais aussi pour les humains qui passent à côté. Et puis la pollution au nitrate, en fait, même à plus faible de dose, on sait que sur le long terme, ça peut entraîner des cancers colorectaux. On sait que le risque existe à partir de 3 à 4 mg par litre, selon les études danoises. Donc vous avez des mesures très précises, en fait, sur plusieurs années. Mais aussi, aujourd'hui, dans la carène, on a une concentration qui est autour de 14 mg par litre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on compte de l'eau pas dans la carène et dans les régions alentours. Qui en fait, à part la nappe de Cambon qui est une nappe très enfouie et qui est plutôt propre, en fait, tous les eaux du fond en fait, sont entourées par des zones agricoles. D'ailleurs, la carène n'est pas du tout l'endroit où c'est plus élevé dans la région. Par exemple, j'ai habité à Bélan actuellement, et en fait, vous êtes plutôt de passer dans l'eau les 40-45 mg par litre. Voir si à Tannes, il y a une limite légale qui est à 50 mg par litre, qui est le moment où ça devient vraiment dangereux pour les nourrissons. Et là, on dit que l'eau est plus viable. Et voilà, pour vous dire qu'en fait, on dépasse, dans toutes les régions agricoles, on dépasse allègrement des taux qui seraient dangereux pour la santé humaine sur le long terme. Donc, ça, c'est les principaux risques au niveau de l'IARA sur la santé à long terme. Au niveau total, donc, il y a la production de dioxyde de soufre. Donc, c'est sur le court terme qu'il y a des effets respiratoires. À nouveau, on sait ainsi qu'il y a plus de risques de faire des décompensations d'asthme ou des PCO. Pour le long terme, comme j'expliquais, en fait, c'est très difficile de savoir. C'est possible que ça entraîne des maladies cardiovasculaires, c'est possible que ça entraîne des cancers, et c'est extrêmement difficile de savoir par rapport aux autres pollutions qui de toute façon sont associées. Voilà. Et puis, au niveau de total, il y a d'autres expositions. Il y a le benzène et tous ces dérivés dont on parlait, donc toluène, éthylbenzène, xylène, et puis tous les hydrocarbures aromatiques spécifiques. C'est des choses qui sont présentes à plus ou moins haut degré dans l'essence. Avec un risque cancérigène de leucémie et possiblement cancer pulmonaire. Ce qu'on considère en fait, c'est on se considère que c'est un cancérigène sans seuil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de seuil où c'est pas dangereux. En moyenne, l'air dans les agglomérations est à 1 ou 2 microgrammes par mètre cube. Et dans le rapport que le cabinet de conseil qu'ils avaient employé à Saint-Nazaire avait produit avec des estimations, on disait que dans la raffinerie, on atteignait probablement les 30 microgrammes par mètre cube en moyenne par an. Or, en fait, ça c'est une moyenne, et en fait, on sait qu'il y a des fuites. Assez souvent, en fait, quand ils font des estimations de moyenne annuelle, ils enlèvent un peu les fuites en disant c'est exceptionnel. En fait, vous voyez, c'est un exceptionnel qui se produit souvent. Et qu'il peut y avoir des pics. Ce que nous apprend ce chiffre, c'est quand même que les employés, y compris les gens qui sont par exemple des tâches administratives, en fait, sont exposés, et le sont bien, en principe. Ça nous apprend aussi qu'il y a une exposition sur cet endroit qui n'est pas du tout négligeable, et c'était aussi un endroit où passait la voie ferrée jusqu'à assez peu de temps. Et à nouveau, on n'a un peu aucune idée de ce que c'est les pics quand il y a une fuite et que, effectivement, ces composés-là arrivent jusqu'à Longe. En termes de pic, qu'est-ce que ça fait sur l'effet à long terme pour la population? Est-ce qu'il y a un risque de cancer augmenté parce qu'à un moment vous êtes exposé à un très gros pic? Ça fait partie des choses qui sont possibles, mais sur lesquelles on a très peu de. Voilà. Et ensuite, je voulais vous exposer deux points un petit peu transversaux à ça, le problème de la polyexposition. C'est-à-dire qu'en fait, les bourgeois et surtout les travailleurs en fait, vont être exposés à moins de polluants. Or, on sait que les risques sur les polluants qu'on a pu étudier, sur les cancérigènes qu'on a pu étudier, ont tendance à être multiplicatifs. Par exemple, si vous fumez, vous avez un risque de cancer du poumon qui va être multiplié par 10. Si vous êtes exposé à l'amiante, vous allez avoir un risque qui est multiplié par 5. Et si vous êtes exposé à l'amiante et que vous fumez en même temps, votre risque est multiplié par 50. 5 fois 10. Et du coup, toute la question qu'on peut se poser, c'est si vous évitez la donge, que vous êtes exposé un peu aux particules fines, un peu au benzène, un peu, par exemple, vous travaillez au chantier, donc un peu aux poussières, etc., et puis vous êtes fumeur, en fait, peut-être que ces risques-là, individuellement, ils ne sont pas énormes. En fait, une fois que vous les multipliez, à combien vous arrivez? Et ça, c'est extrêmement difficile à dire. Ça fait aussi que l'on peut avoir des gens qui ne sont pas reconnus en maladie professionnelle, parce qu'on se dit, bon, j'ai un cancer du poumon, ils étaient fumeurs. Donc ça peut être vraiment quelque chose à faire passer comme message que s'il y a des cancers dans votre entourage, que les gens ont travaillé au chantier, que les gens ont travaillé chez l'ERA, que les gens ont travaillé chez Total, ça vaut le coup de vraiment essayer de prendre conseil de ce travail pour avoir des reconnaissances parce que c'est pas les mêmes indemnités. Et puis c'est aussi l'intérêt de limiter les autres facteurs de risque. Si vous habitez à Lyon ou à Montoir, de déjà bien exposer au niveau pulmonaire. Donc, si vous avez le moyen d'arrêter de fumer, c'est pas un comportement conseillé, histoire de ne pas être exposé à quelque chose encore en plus.
Et n'arrêtez pas votre jardin.
Voilà. Et la dernière question que je voulais soulever, c'était qu'aujourd'hui, dans les chantiers, dans les sous-traitants surtout, il y a beaucoup de travailleurs étrangers. Et la question, c'est comment sont suivies ces personnes quand elles retournent en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie. Et pour moi, c'est un grand point d'interrogation. C'est des gens qui souvent parlent pas français, parfois parlent pas anglais. Et donc, voilà. Et donc, aujourd'hui, comment ils sont suivis? Est-ce qu'on les informe des risques? J'avais quelques retours de médecins du travail qui disaient que, visiblement, il y avait des produits qui étaient cancérigènes quand vous bossiez chez Total, mais visiblement, quand vous étiez sous-traitant, probablement pas vraiment. Voilà. Et c'est aussi la question globalement d'entreprises qui se sous-traitent de plus en plus et qui vont avoir de moins en moins de gens qui vont. Comme les entreprises sont plus petites, elles ont moins les moyens d'avoir de la médecine du travail bien faite et des comités d'hygiène et sécurité bien faite. Donc, ça met plus en danger les entreprises.
Son intervention. Je ne fume pas, je n'ai plus en parole, et je ne peux pas m'éviter de respirer, donc le crocis, les soudages cancérigènes, ça c'est aussi pour moi. Voilà, et je me demande si je ne vais pas me remettre à fumer.
Juste pour compléter aussi ce que dit Christian, je crois que ça pose aussi un problème de médecine, parce que quand vous allez chez le médecin, les premières questions qu'il peut vous poser, c'est fumez-vous, buvez-vous, jamais, où habitez-vous et où travaillez-vous. Donc c'est peut-être aussi une leçon à retenir en disant que c'est quand je vais aller chez le médecin, j'espère que ce n'est pas demain, mais lui dire, ben, effectivement, je peux fumer, je peux boire, mais je vis aussi en zone polluée. Parce qu'il faut aussi que la médecine prenne à bras le corps cette solution, cette situation-là. Sinon, on ne s'en sortira pas. Voilà. Le monsieur, là-bas. Ouais.
Bonsoir. J'ai une question qui peut paraître naïve ou provocatrice, c'est au choix. J'aimerais savoir s'il y a eu des interrogations ou des études, enfin je m'en doute, sur le ratio entre le coût de la prévention ou le coût des soins. C'est-à-dire que quand on entend effectivement combien on peut augmenter les maladies, même avant les cancers, il y a beaucoup de frais médicaux, de frais d'hospitalisation, tout ça, c'est très très cher pour la collectivité. Alors qu'en évitant effectivement de polluer les travailleurs ou les populations qui sont dans les zones un peu infectées, voilà, donc je ne sais pas si on peut répondre à cette question, mais je trouve qu'on peut quand même permis de soulever cette question-là.
Oui, je peux répondre. Justement, ce matin, j'ai été à une réunion J'ai appris que la communauté européenne travaillait sur une nouvelle directive concernant la mesure de la pollution de l'air. Et dans cette directive, il paraît donc que la Commission européenne a chiffré combien ça coûtait de mettre en place la nouvelle réglementation qu'ils envisagent de mettre, avec beaucoup plus de polluants mesurés, des seuils beaucoup plus renforcés, notamment sur les poussières ultra-fines, s'aligner sur les seuils OMS. Donc ils ont dit que ça allait coûter 7 milliards. Et la même Commission européenne aurait, donc je ne suis pas allé vérifier sur le site internet, mais la même Commission européenne aurait chiffré combien ça allait rapporter, et donc rapporter notamment en termes de réduction d'impact sanitaire. Et là, le chiffre est plutôt de l'ordre de 40 milliards. Donc je vous engage à aller voir le site de la Commission européenne, nouvelle directive qualité de l'air, et il y a peut-être des informations sur l'ordre de grandeur des coûts et des gains.
Je pense que le problème qui est toujours, c'est que ce n'est pas les mêmes caisses. Donc voilà, il y a la sécurité sociale d'un côté qui de toute façon est déficitaire et de toute façon on est en train de tirer à zéro le jour dessus et on n'est pas sûr qu'elle fonctionnera encore dans 20 ans. Et puis les portefeuilles des entreprises. Et donc je pense que les arbitrages qui sont faits là-dedans, qui sont. Voilà, et après c'est très dur de chiffrer, mais effectivement, c'est probablement. Je pense qu'il y a des gens qui ont discuté sur la question. Je pensais se pencher sérieusement sur la question. Et puis je pense que c'est difficile pour les gouvernements de se dire que en fait, quand vous faites des économies sur les cancers, vous les faites dans 20 ans. Et je pense que ça ne va pas trop avec la longueur des mandats politiques. Et,
Est-ce qu'il y a une autre question ?
Bonjour, Maxime Postres, justement, vous avez dit qu'il y avait trop de données tout à l'heure, alors sans aller justement, vous pouvez comprendre ce qui vous empêchait du coup d'analyser ce que, sans reprendre la question technique statistique.
Alors, j'aurais beaucoup de mal à rentrer dans les données techniques, à faire entrer dans les techniciens. Quand on assiste à ce type de demande d'études, telles que l'étude de zone ou les études épidémiologiques, au bout d'un moment, les experts disent qu'il y a tellement de variables qui rentrent en jeu, c'est un peu ce que vous avez expliqué tout à l'heure sur quelle est la part entre le soufre, le cadmium, l'azote, etc. dans la réaction, il y a tellement de données qu'on ne peut pas mesurer. Et on se fait un peu balader par les discours des experts. Et tu me corriges, Didier, si j'ai des bêtises. Notre réponse par rapport à ça, c'est de dire mais faites des mesures en continu, de façon à ce qu'on ait réellement des données observables et fiables et qui vous permettent de faire des déductions et de progresser dans les déductions. Donc, chose qui est actuellement pas faite. Mais le trop de données, c'est. Enfin, je sais pas si je suis clair, c'est. Ça paraît.
Il nous dit souvent qu'il y a beaucoup trop de polluants et on ne peut pas mesurer toutes les données. C'est plus de ça qu'il nous dit. De l'autre côté, quand il regarde les dossiers existants, il ne regarde pas les bonnes données, puisqu'il regarde des mesures qui ont été faites il y a 5 ans, il y a 10 ans, et qui concernent les polluants basiques et puis les polluants industriels de maintenant. Donc c'est vrai que c'est très compliqué, leur réponse est un peu plus ambiguë, ou plutôt l'envie de ne pas faire grand-chose. Donc c'est un mélange. Donc, je vais avancer dans la dernière slide.
Non, je voulais juste dire qu'il y avait des endroits, je sais, dans les temps verts, par exemple, dans le sud de la France, vous avez fait une étude où ils s'étaient servis de certains polluants comme marqueurs. En fait, vous disiez de toute façon, si vous allez réduire un truc, vous allez probablement réduire d'autres choses en même temps. Donc, vous avez essayé de faire de choses comme marqueurs, comme. En fait, de sommer tout, au final, en fait, c'est difficile à lire. Plus qu'une question, moi, j'ai envie quand même de faire une remarque. C'est que, bon, bah, là, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a une mise en danger extrêmement grave à la fois des salariés qui travaillent dans ces entreprises et de l'ensemble de la population du bassin de l'estuaire, donc avec tout le travail dont vous nous avez parlé. Il y a quand même une incurie, pour le moins, des services de l'État. Et voilà. Donc, et comment, enfin, c'est l'objectif aussi de cette soirée, de toute cette campagne, mais c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que ça change. Parce que ça fait des années
que la sonnette d'alarme est tirée, que on continue, voilà, je vais être rapide, mais donc c'est est-ce qu'on ne poursuit pas juridiquement mise en danger d'autrui, etc. Et que les élus, on se demande, nous, M. Samson d'ailleurs, soient un peu plus offensifs. Voilà, merci.
Bonne question, c'est pour ça qu'on s'est mis en association et donc je vous engage à adhérer à l'association pour qu'on soit encore plus nombreux dans ce plat. Bon, plus sérieusement, effectivement, là j'ai cherché sur ce transparent à capitaliser sur ce qu'on a déjà vécu, sur ce que je vous ai présenté. Ça ne répond pas complètement, mais il y a quelques éléments de réponse. Donc oui, il faut maintenir une pression, peut-être aller au juridique, peut-être. Donc pour l'instant, là, au vu en tout cas des crises qu'on a eues ou des accidents qu'on a eus, je pense qu'il y a des améliorations à faire dans la gestion de crise. Typiquement, quand je reprends l'incident de Total le 21 décembre, là, moi je dis, il faudrait quand même qu'ils s'entraînent, là, le préfet, les autres personnes autour de lui, à la gestion d'une crise, y compris la nuit. Parce que quand on voit la façon dont ça s'est passé, manifestement, ils ne se sont pas réunis ensemble, ils ont peut-être fait une visio le lendemain matin à 8h, mais ils n'ont pas bossé de nuit à 2h du matin avec les bonnes informations. Donc, très clairement, il y a un problème de gestion de pilotage de crise dans ces situations-là. Parce que c'est important, hein, si vous perdez 8h, c'est pas la même chose. Alors, quand il y a un incendie, c'est facile, on envoie les pompiers. Bon, la décision est vite prise. Mais quand on a un problème avec une fuite, avec un gaz qui part, etc., qu'on ne sait pas, là, ils ne savent pas faire. Enfin, donc, il y a vraiment, à mon avis, un axe sur s'entraîner avec un pilotage de crise qui associe l'État, RPI de la Loire, l'industriel, bien sûr, et les élus. Quand le maire de Donge, il a été informé, je crois, quelques heures après, il dit « j'ai pas eu d'infos, on m'a dit tout baigne », ça me fait peur, quoi. Alors que normalement, c'est un élément clé dans le dispositif de gestion de crise. Donc, il faut probablement que l'amélioration des exercices de crise ait lieu en activant l'ensemble des acteurs. La force d'intervention rapide d'RPI de la Loire, c'est quelque chose qu'on a l'avantage d'avoir, toutes les régions n'ont pas ça. RPI de la Loire a décidé de monter ça il y a deux ou trois ans. Ça marche. Il faut probablement l'activer plus vite. Dans le cas de Total, là encore, ils l'ont activé à minuit, alors qu'après un coup de téléphone à 22h. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas activé tout de suite? Ils seraient arrivés plus tôt, ils auraient commencé à mesurer plus tôt, il y aurait des informations plus tôt. Ne pas attendre alors qu'on a un bel outil qui est là. Bon, depuis le début, on dit qu'il faut que les grands industriels financent, comme fait Total et Tour de Longe, financent des plans de surveillance. Plans de surveillance, ça veut dire qu'on va mesurer dans les zones habitées autour des sites industriels en continu, jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On va mesurer les concentrations des quelques polluants traceurs, hein, le benzène notamment, le SO2, le HCl, enfin, il n'y a pas mis des milliers de polluants, mais on peut en mesurer une dizaine. On continue comme ça, s'il y a un incendie, s'il y a des fumées, on sait au moins, on a des informations tout de suite, pas besoin d'attendre 3 mois, on a des informations tout de suite sur la dangerosité réelle. Et on n'a pas des phrases bidons pour dire, sur la base des informations que j'ai ou que je n'ai pas, tout va bien. Hein, au moins, on aurait des bonnes informations. Donc ces plans de surveillance, il faut que les industriels qui se disent respectueux de la santé de la population, les mettent en place, les payent et soient fiers de les avoir mis en place. Il faut probablement que la FIR soit dotée de moyens mobiles d'analyse en temps réel. On n'attend pas 48 heures pour avoir des résultats. Et il faut que tous les résultats de ces mesures soient publiés. Là, dans le cas de Total encore, Total a des mesures qui sont faites à l'Amécreté ou ailleurs. Ces mesures ne sont pas publiées. Pourtant, ce sont des mesures environnementales. La loi européenne, normalement, impose que ces mesures soient publiées. Elles ne le sont pas. Il y a certaines mesures qui ne sont pas publiées.
La FIR sont publiées.
Oui, ceux de la firme, oui, c'est publié, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Hein, on parle des odeurs de Cargill. Hein, il y a des missions qui ont été demandées par Cargill et RPI de la Loire pour mesurer les odeurs. Oui, on sait que les odeurs, ça pue, ça vient de Cargill. Bon, dans le rapport de RPI de la Loire, on va vous dire, ça pue jusqu'à 1300 mètres. Bon, mais on ne vous dit pas la composition des odeurs. On vous dit les produits qu'ils utilisent pour masquer les odeurs. Mais on ne vous dit pas qu'est-ce qu'il y a comme odeur, la dangerosité de l'odeur. Bon, pour ça, la transparence, la publication des résultats qui sont faits, dès lors que c'est à l'extérieur des sites, ça doit être publié, et en toute transparence, et ce n'est pas le cas. Donc aussi bien en temps de paix qu'en cas de crise. Et quand il y a une crise, là il faut que le préfet active Ineris en temps réel, c'est prévu, il y a une cellule qui est pour ça. et l'active non pas pour savoir si les odeurs vont se sentir à 3 km ou à 4 km, mais pour qu'on active l'INERIS pour savoir s'il y a un impact sanitaire. Dans le cas de Donge, toujours Donge, le vin, on n'a toujours pas l'étude sanitaire, mais on n'a pas activé l'INERIS pour savoir l'impact sanitaire, on l'a activé pour la distance de perception des odeurs. Pourquoi on n'a pas activé l'INERIS pour dire quel est le seuil qu'il faut surveiller pendant 4 jours, parce que ça va durer 4 jours, pour savoir s'il y a un impact sanitaire. Donc là encore, cette gestion de crise, il faut l'améliorer. Et il faut chercher les bonnes personnes. Il ne faut pas que le préfet confie à Total une étude sanitaire qui va sortir 9 mois après. On va attendre 9 mois pour savoir quel est l'impact sanitaire d'un accident qui a duré 5 jours avec une dose, comme ça. Non, c'est inacceptable. Bon, quatrième point, il faut que les plans locaux d'information, alors ce n'est pas forcément le bon terme, maintenant il y a un plan communal de sauvegarde, qui s'appelle maintenant intercommunal. Hein, c'est le plan qui va effectivement préparer la commune ou l'agglomération à réagir en cas d'incident, en cas de problème, à la fois pour informer, à la fois pour mettre à l'abri ou pour évacuer. Là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. À Donge, si j'ai bien compris, le plan date de 2012, il n'a pas encore été réactualisé. À Saint-Nazaire, je crois qu'il y en a un, au Montour, il y en a peut-être un. C'est important que ces plans-là soient réactualisés, soient intégrés.
Bientôt, je crois, à Saint-Nazaire, non ?
Oui.
D'accord. Mais il faut que...
Chez vous aussi.
Non mais c'est important, il faut aller loin, il ne faut pas simplement dire cloisonnez-vous, restez chez vous. Vous ne pouvez pas rester chez vous pendant 5 jours. Il y a des incidents, un incendie, si ça ne dure que 8 heures, oui, on peut se confiner. Mais par contre, si l'incident va durer 5 jours parce qu'il y a un incendie de 5 jours, ou une fuite de 5 jours comme chez Total, vous ne pouvez pas être confiné. Donc il faut bien évacuer. Où va-t-on loger 10 000 personnes si on évacue 10 000 personnes? L'incendie de 1987, on a évacué 40 000 personnes. Est-ce que Saint-Nazaire est capable d'évacuer 40 000 personnes ou 10 000 personnes le cas échéant? Je ne pense pas que le plan actuel le prévoit. Donc là, il y a sûrement à travailler sur cet axe-là pour que la population soit réellement mise à l'abri. Peut-être que le préfet, dans le cas de Donge, n'a pas évacué parce qu'il n'avait pas de plan d'évacuation. Eh bien, déjà qu'ils le reconnaissent.
C'est logique s'il n'y a pas de plan d'évacuation.
Oui, mais qu'ils le reconnaissent plutôt qu'ils racontent n'importe quoi. Bon, voilà. Et donc, au final. L'important, c'est de réduire les risques à la source. Donc quand la maintenance n'est pas faite, ce n'est pas normal que les maintenances soient faites, que les tuyauteries soient changées, que les cuves soient réfrigérées, que les bacs d'étanchéité soient étanches. Ce n'est pas le cas. Les inspections le contrôlent et il y a plein de choses qui ne sont pas faites. Donc il faut que les prescriptions qui soient proposées par l'ADREAL soient réellement faites. La réalité, c'est que l'ADREAL fait une inspection, elle dit ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, mais il ne se passe rien. Ou alors, il va se passer... Oh, ce serait bien que vous le fassiez dans les trois mots aussi maquillés. Il est parfois écrit susceptible de suite. Donc on attend que le préfet fasse quelque chose. Dans 80% des cas, il a bien susceptible de suite, mais il n'y a pas d'arrêté préfectoral. Donc moi, effectivement, par moment, je m'interroge. L'ADREAL fait le boulot, il identifie ce qu'il faudrait faire. Le préfet n'impose pas de faire ce qu'il devrait faire. C'est un petit peu curieux. Donc c'est pour ça qu'on dit bien, et là on rejoint le point Yara. Il faut sanctionner sans délai et fortement le non-respect des prescriptions.
Je voudrais juste faire une information qui n'a pas complètement rapport avec ce qu'a dit Didier. Mais il existe une action judiciaire qui a été adoptée en Royaume. Okay. En 2020, l'État français, parce qu'il y a en fait des règles en trop, donc, vu l'information ouverte pour SAS Yara France, mise en cause. Des chefs d'exploitation non conformes d'une installation avec une atteinte grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou dégradation substantielle de la faune, de la flore, de la qualité d'air, du sol, de l'eau, fait connu du 6 novembre 2017 au 19 juin 2020 à Montfort de Bretagne. Donc il y a une action judiciaire intentée par l'État. Quand on a su, nous, les associations, qu'il y avait une action judiciaire intentée par l'État, puisqu'on considère que l'entreprise Yara est une entreprise voyou, on s'est dit, bah, soyons logiques avec nous-mêmes, portons-nous partie civile. Donc, on s'est dit, on va se porter partie civile. Nous, Vente à Méant-Pavol, par exemple, on avait fait une action judiciaire contre le Chrome 6 et l'entreprise Protect, qui nous a quand même coûté 7 000 euros d'avocats, toutes nos cotisations de nos adhérents passaient là-dedans. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, les avocats nous ont dit, il faudra déjà déposer 3 000 ou 4 000 euros, tu vois, et après, ça coûtera plus cher. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce que les associations, nos sous ne sont pas illimités. Donc on a demandé l'aide juridique semaine, et le cabinet Lemoine qui nous avait suivi pendant notre combat contre le Consul et Rabat Protect,
a accepté qu'on ait de l'aide juridictionnelle. Donc, nos trois associations, Donge, Montoire et Néan-Péouac, on a décidé de se porter partie civile. On se porte partie civile. Parce qu'on considère que l'IRA est une entreprise volue et qu'il y a une action judiciaire qui se porterait contre l'IRA. Il y a d'autres personnes qui ont dit que l'IRA est une entreprise volue. Pourquoi, éventuellement, s'il n'y a pas de ces gens-là, ah non, ils ne sont pas portés partie civile alors qu'il y a actuellement une action judiciaire qui est portée contre
la justice dans les 10 ans.
Si
on a d'autres moyens, on peut le faire. Mais
on essaye de faire par tous les moyens possibles. On sait bien que ça va être pas.
Les autres personnes qui ont dit que c'était des voyous qui n'ont rien fait.
Ben vous étiez là l'an dernier. Vous étiez devant la sous-préfecture.
Non, tout le monde dit que.
Donc il y a un certain nombre de personnes qui ont dit que. Et même dans les écrits, dans les journaux, je crois qu'à l'occasion du conseil municipal de Saint-Nazaire, je crois que le maire de Saint-Nazaire avait qualifié l'entreprise d'entreprise, enfin de patron voyou.
Alors pourquoi?
Non, mais c'est pas.
Je parle pas au nom de
au contraire, je crois que.
Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, ce qui m'a donné quelques problèmes.
Mais pourquoi la Carène ne se mettait pas partie civile? Pourquoi on ne se bouge pas les fesses un petit peu? Parce qu'il y en a. Ça fait je ne sais pas combien de manifs qu'on fait à droite, à gauche, à gauche. Jamais. Donc il va falloir un petit peu.
Non, mais c'est pas à monsieur Noguet.
Non, je parle pas. Je
pourrais rapporter ce que vous dites.
La question est posée.
À la Carène. Et ça commence à suffire, quoi.
Non, mais la question est posée. La meilleure façon aussi de montrer que vous êtes, êtes déterminé, c'est de multiplier aussi les parties.
On n'a pas envie de choisir au 14 octobre de l'année prochaine. Là, vous n'avez pas l'entendu.
Bon, les échanges étaient de savoir pourquoi est-ce que la Carène ne se portait pas partie civile aux côtés des associations dans le structure financière qui est portée contre l'entreprise IRA et donc des préconisations. Désolé de ne pas avoir été clair.
Il est très faible. Il est allumé, mais très faible.
Aux actions qu'on pourrait faire de manière complémentaire et sans rentrer dans des polémiques stériles qu'il faut. D'ailleurs, me semble-t-il, le jeu aussi de Yara et des patrons de Wayou, puisque plus on est en train de se dire que. On est pris dans des systèmes, dans des liens pathogènes, et que d'autre part, si on intervient, là, on va se retrouver aussi à produire aussi de la pollution ailleurs. Je pense qu'il faudrait peut-être réagir autrement, c'est-à-dire se dire que, d'une part, la complémentarité de nos actions est importante, c'est-à-dire que l'action des élus, l'action des associations, mais l'action citoyenne et l'action syndicale peuvent se conjuguer à certains moments. Et il y a des points de convergence qu'on peut avoir. On peut quand même avoir des points de convergence concernant la santé et la santé des salariés et la santé et du public. Là, ça me semble important. Les citoyens, ils ont droit à la santé, on a le droit à un air pur. On pourrait déjà, sur des slogans comme ça, se retrouver. Deuxièmement, ce qui a été dit sur les plans de surveillance, on peut avoir une action conjuguée, je pense, pour demander des plans de surveillance payés par les entreprises. Ça me semble important. Troisièmement, avoir des instruments de mesure, comme ça a été dit, qui soient des instruments de mesure et d'analyse, qui soient permanents. Je pense qu'on pourrait aussi, tous ensemble, arriver à se mettre d'accord pour trouver les moyens que ce plan-là ça puisse avancer. Et puis, dernier point qui me semble important, c'est vrai que la communication et la pédagogie, comme c'est fait ce soir, est excellemment importante dans ce type de chantier, que, comme ça a été dit, qui présente une grande complexité et des données très variables. Et faire des réunions comme on fait ce soir, les 18 associations, et faire des réunions aussi avec le soutien de scientifiques, de médecins, et bien évidemment avec le soutien des démocrates, qu'ils soient élus, qu'ils soient aussi syndicaux, ça montre la vivacité qu'il peut y avoir et qu'il y a l'importance de bien informer la population.
Vous parliez là du contrôle opéré qui devrait être financé par les entreprises. Je pense qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'il y a notamment des extensions ou des modifications dans les entreprises qu'on appelle les ICPE, les installations classées pour l'environnement, il y a des enquêtes d'utilité publique qui sont données, auxquelles la population est largement conviée à participer via les documents, mais souvent ce sont des documents extrêmement rébarbatifs, très complexes, et l'action citoyenne elle est compliquée. Elle est compliquée justement parce qu'on ne comprend pas, parce que rien n'est fait pour qu'on comprenne, parce que le commissaire ou la commissaire enquêteur ou enquêtrice ne fait rien pour aider. Et je pense à, je ne sais plus, alors vous avez peut-être le congé, il y a 3 à peu près, on s'était dans cette même salle ici, une enquête publique organisée à l'occasion de modification d'installation stellaire à Saint-Nazaire, où il avait été question de mesures de qualité de l'air, et notamment du chrome, puisque nous on était l'association Vivre à Méampin-Ouette un peu braquée sur cette substance, hein, cancérigène, reprotoxique et mutagène. Donc il y avait des mesures qui avaient été faites par des laboratoires estampillés, reconnus, etc., qui étaient absolument obligatoires pour l'enquête d'utilité publique. Or, les mesures se révélaient inutilisables puisqu'il y avait eu de la tempête, les filtres avaient été détrempés, etc. La conclusion du laboratoire spécifiquement diligenté et payé par l'exploitant disait qu'il n'y avait pas de traces. Deux lignes plus loin, c'était qu'il n'y avait pas de traces parce qu'il n'y avait plus de filtre, en fait. Voilà.
Il avait été volé.
Et rien n'a été... ça, c'est un tout petit bout d'enquête publique. Mais voilà, je pense que c'est cette illustration-là, et ça montre un peu le cynisme auquel on fait face. En fait. Et je pense qu'il faut avoir un peu ça en tête quand on se dit qu'on en a marre de ça, qu'on n'a pas envie d'accepter tout ce qui s'empile année après année, décennie après décennie. Et voilà, c'est ça qu'on a en face de nous. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut être dans des associations, on peut être citoyen, on peut être syndicaliste, on peut être, voilà. Mais je pense que peut-être que l'honnêteté que nous, on a, ben, elle n'est pas partagée et on n'a pas en face de nous.
Oui.
Et ça aussi, ce sont des choses qui sont admises par l'État, hein, l'État qui donne les autorisations à exploiter. Et puis la DREAL qui leur regardera dans les yeux, qui dit bah oui, on sait bien, c'est dégueulasse. Ils le disent. Ils le disent, hein. Ils le disent aux associations, etc. On sait que c'est dégueulasse. Le secrétaire de la sous-préfecture, je le dis à chaque fois, mais. Monsieur Emmanuel, je sais que j'ai dit son nom, mais il y a quelques années, a dit là où je suis pharmacien, mais c'est dégueulasse. Pourquoi est-ce qu'il y a une école juste à côté là? Pourquoi est-ce que vous avez mis une école à côté? Et on lui dit bah non, mais c'est la plus vieille école de Saint-Nazaire. Ah, bon, question suivante. Ouais. Donc maintenant, enfin voilà, je pense que c'est pas du misérabilisme, il faut juste se dire que c'est la situation face à laquelle on est, et puis que il faut retrousser ses manches et puis. Et puis voilà.
Et on peut même rajouter.
Est-ce quelqu'un qui veut?
Oui.
Pardon.
Oui, on voit aujourd'hui que l'État devrait protéger ses citoyens, protège plutôt les entreprises. On le voit tout partout. Les permis d'exploiter, c'est fait, que ce soit pour des antennes à 5G. Que ce soit pour des entreprises qui sont dangereuses, c'est très facile, hein, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de restriction, les citoyens, on s'en fout, on leur envoie les flics pour taper dessus. Bon, ça c'était mon introduction. Ce que je voulais dire vraiment maintenant, c'est que on a vu tout à l'heure que, en fait, les polluants, il y en a très nombreux, individuellement, on pourrait dire, ça influe sur tel organe, mais quand ils se mélangent, ben, ça multiplie les risques et puis on ne sait plus trop ce que ça donne. Moi, ce que je voulais dire, c'est que Il y en a même beaucoup plus que ça. En fait, on dénombre environ 810 perturbateurs endocriniens. Et il y en a 12 qui ont fait l'objet d'études, d'études croisées. Donc en mettant tel de perdre un pain pas avec tel autre, ça va faire ça. Alors qu'il faudrait faire des études dans tous les sens. Là aussi, le rôle de l'État de protéger la santé des citoyens, ce serait de lancer ces études. Parce que ce n'est pas insurmontable. On a décrypté le génome humain, c'est bien pire. Hein, on a, simplement, on a mis les moyens. Il y a 3 milliards de gènes, je ne te dis pas la complexité. Là, il y a 810 perturbateurs endocriniens qui doivent intervenir avec de tous les autres polluants. Ben, il y a des études à faire. Ben, c'est pour la recherche aujourd'hui, elle dépend de financement, en partie de financement privé. Et puis on casse de plus en plus toute la recherche publique, donc tout ce qui pourrait être utile. Voilà, donc il y a un gros travail, effectivement, des citoyens à faire par rapport aux politiques. Le politique est le décideur, ne l'oubliez pas.
Donc on va peut-être prendre une dernière question avant de conclure, parce que on voit qu'un certain nombre de personnes commencent à se...
Et moi, je remercie, c'était excellent, les différents points de vue, les présentations, c'est vraiment très, très intéressant. Bon, maintenant, je suis la dernière à parler. Donc, on a fait bien. On a fait l'état des lieux. Parfait. On a fait l'état des lieux. Il y aura entreprise, pétition. Il y a plein de choses. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'en fait, l'objet, là, ce soir, c'est on va faire quoi? Les pétitions qui sont signées, qu'est-ce que vous en faites? Il y a une manifestation, j'ai vu ça le 14 octobre, je le rappelle pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait à cette manifestation? On défile, on est devant la mairie et on ne fait rien. Voilà, je crois que maintenant, il faut passer à l'action. On a bien compris, hein, Chiara, c'était une industrie joyeux, on a bien compris. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Voilà, moi c'est ma question. C'est pour ça que je venais, quoi. Hein.
Très clairement, le problème, c'est que mettre le feu à Yara, ça serait très dangereux pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, je crois que nous, on donne les éléments en tant qu'association, les éléments qu'on a en notre possession. Il y a malgré tout un travail d'information énorme qui reste à faire. Et ça, je demande l'avis des gens qui ont pu faire signer les pétitions sur le marché. Mais il y a quand même à peu près une personne sur trois ou une personne sur deux qui n'a jamais entendu parler de Yara et qui ne sait pas ce que c'est que l'entreprise et qui ne sait pas quel avant-soir et que les enjeux que ça représente. Donc ce travail, il faut vraiment continuer à le faire. Dans ce cadre-là, on continue un peu dans les soirées de cité d'éducation populaire avec la collection du film des Algues Vertes à la salle Tati le 6 octobre, vendredi 6 octobre, avec un journaliste de Stan, Pierre-Yves Bulto. Stan, c'est une plateforme de journalistes qui font de l'information sur le lobby agro-industriel en Bretagne, notamment. Donc, il y aura des choses, je pense, plus intéressantes sur ces aspects-là dans le débat. Et puis, il y a bien sûr cette manifestation du 14 octobre. Donc là, pour l'instant, la manifestation, dans les discussions, et puis là, toutes les personnes qui souhaitent s'investir pour participer à la suite des actions sont les bienvenues dans ces réunions. On a dit que cette manifestation, c'était un point d'étape, que la pétition, on pensait la poursuivre jusque fin octobre ou début novembre pour demander à un moment donné une audience en préfecture avec un objectif d'avoir réuni 2500 à 3000 signatures sur la base uniquement d'une pétition de la main à la main. On ne fait pas de pétition internet, hein, parce qu'un clic, ça ne veut rien dire. Et il faut aller au devant des gens. Donc ça, c'est un peu les échéances. S'il y a de la détermination et de l'imagination pour trouver des actions qui permettent de gagner et d'amplifier le rapport de force, on est preneur, venez aux réunions, on échange et on voit ce qu'on est en mesure de faire.
C'est quand la prochaine
réunion? Elle est pas
fixée. Non.
Je crois que on a entendu.
Je veux dire, la date de la réunion,
c'est quelle réunion?
À Gronde. Donc la prochaine réunion est à Gronde.